Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, CGNV 96.9.
At this point, there is no telling where the two could be since the Amber Alert was issued.
Ain't hard to find.
It's Buck.
Who's bad ass?
Somebody said you looking for
me. For me, nigga. Yo, ain't hard to find.
I heard some pussy niggas looking for me. Make me go get them niggas cooking for me. This shit is gangsta and it's gumbo, nigga. Stir that gumbo with that fucking stick, bitch. I heard some pussy niggas looking for me. Make me go get them niggas cooking for me. This shit is gangsta and it's gumbo.
This shit is gangsta and it's gumbo.
Stir that gumbo with that fucking stick. If you seek and you shall find, that's the code that we live by. I don't Instagram, I pull up, I'm the bag. Gumbo so rotundo, it's so saucy that it's dangerous. We don't rap with rappers cause they actors, we gangsters. I don't paint no picture, I ain't putting on for nothing. I give niggas issues close range, disgusting. You ain't hard to find and I ain't hard to find neither. Nigga couldn't snatch me so they was trying to snatch needle. Turn me to that grip reach, stepping for all my people. Question me when they next to me, hoping they keep a seat. Dirty man about his people, mixed with hair on, he might be lethal. I'm a dirt dog, your bitch ass when I see.
I promise.
Heard some pussy niggas looking for me. Make me go get them niggas cooking for me. This shit is gangsta and it's gumbo mix. Stir that gumbo with that fucking stick, bitch. I heard some pussy niggas looking for me. Make me go get them niggas cooking for me. This shit is gangsta and it's gumbo.
This shit is gangsta and it's gumbo.
Stir that gumbo with that fucking stick.
In this phantom with fullies, there's no license to carry them. Just some niggas like to pop you, burn your body and bury them. Couple coops with no room, we ain't going nowhere in them but to pull up and shoot.
CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
Au 96.9, voici Vent Fraîcheur.
Allô, allô, la belle gang! Comment allez-vous en ce beau dimanche matin, 11h? Nous sommes le 24 septembre 2023. Bienvenue à l'émission Vent Fraîcheur. Ce matin, on va partir des rumeurs peut-être, je ne sais pas. Ils sont sur le chemin de Compostelle. Éric et Brigitte sont avec nous pour nous parler des rumeurs de Compostelle. Par la suite, Éric Huillon nous initiera à la bourse pour les nuls. Nous aurons également la référence en épanouissement de la jeunesse. Ça, j'ai vraiment hâte de vous présenter cette gang-là. Et à la toute fin, comment influencer positivement les autres sans y laisser la peau? Ça va être hot encore aujourd'hui, ma belle gang. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux. Pourquoi je le sais? Bien, c'est parce que vous me le dites. Vous m'écrivez « Hey Manon, en fin de semaine, je vais t'écouter. Hey Manon, en matin, je vais t'écouter. Hey Manon, on t'a écouté l'autre dimanche. Hey Manon, c'était le fun. » Bien, j'aime ça. Continuez. Continuez à me le dire à moi. C'est important. Mais s'il vous plaît, dites-le aussi aux gens que je reçois. Envoyez-leur un petit message si vous ne les croisez pas dans la rue. parce qu'on a des intervenants d'un petit peu partout. J'ai envie de dire dans le monde ce matin. Et probablement que ce matin, on a des auditeurs supplémentaires qui viennent de l'Espagne grâce à Brigitte et Eric. Bon matin!
Allô Manon, hey, c'est le fun d'être avec vous autres.
Oui, ça fait drôle que tu dises bon matin, parce que nous, c'est pas le matin du tout, il est 5 heures de la fin de la journée.
Hey, mon temps que ça? Ben oui, c'est vrai, il est 11 heures, un matin je vous écrivais, il
était midi.
Ben oui, c'est vrai. Fait que là, vous autres aujourd'hui, puis j'étais Eric, vous avez marché sur le mythique chemin de Compostelle une fois de plus.
Oui. Tout à fait. C'est notre sixième fois sur le Camino Francés. On a fait plusieurs différentes sections, mais avec les groupes, c'est la deuxième fois qu'on le fait avec un groupe. Entre León et Finistère, en arrêtant, c'est sûr, à Santiago, à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle.
Et là, vous êtes rendu à Castille et León en Espagne, ça se peut-tu?
Tout à fait.
On est à Hospital.
À quel endroit?
À Hospital de Órbigo.
Hospital de Órbigo. Moi, je ne l'ai pas fait ce chemin-là, malgré que c'est le plus populaire. Ah. Oui, fait que je ne me situe pas tout à fait, mais c'est magnifique. Là. Je viens d'ouvrir le Facebook sur la page de Botte et Vélo et j'ai vu que j'ai manqué votre vidéo d'à peu près une trentaine de minutes où vous donniez des nouvelles du jour. Ça aussi, j'aime ça, moi, vous suivre comme, de cette façon-là. Je trouve ça intéressant. Puis, d'un fois, j'ai le goût d'être avec vous.
Ah oui, j'aimerais ça encore.
Un jour, c'est sûr que je vais vivre l'expérience avec vous. Là, je sais, vous allez me dire, bien, Manon, c'est quand? Mets la date. Puis, vous avez tout à fait raison, je devrais la fixer, cette fameuse date-là. Mais je vais regarder ça.
On est dans un très beau village en ce moment. Hospital de Órbigo, c'est un petit village médiéval avec le plus long pont médiéval où ils font des reconstitutions historiques de joutes médiévales, de chevaliers sur la grande place tout près du pont, sur le bord de la rivière. C'est magnifique.
Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est tout à fait magnifique. Et là, j'avais le visuel, j'étais en train de le montrer à Frédéric qui est en studio également. Là. Je ne sais pas combien mesure ce pont-là, mais il est fantastique, tout avec ses arches, ses pierres. Et wow.
Il fait au-dessus de 100 mètres de long.
OK, quand même.
Oui,
quand même.
Et, c'est un pont qui a 19 arches.
19?
Oui, il a été construit. La première section a été faite dans les années 1200, au 13e siècle. Après ça, une autre section au cours du 15e siècle, 14e siècle, c'est-à-dire dans les années 1500. La dernière section, c'est au 17e siècle qu'ils l'ont construite.
OK.
Puis en ce moment, on est dans notre auberge coup de cœur. C'est notre auberge chouchou sur le Camino Francés, l'auberge San Miguel, avec des propriétaires charmants qui nous accueillent avec un cœur grand comme leur maison. C'est extraordinaire.
On les salue d'ailleurs à l'auberge de San Miguel. Vous connaissez leur nom, j'imagine?
C'est Arturo et Piera qui sont propriétaires. Ils ne sont pas d'origine espagnole.
Non,
je ne me souviens plus s'ils sont vénézuéliens ou argentins.
L'Amérique du Sud.
Mais ça, c'est
ils sont venus s'installer en Espagne.
C'est quelque chose qui est magnifique. Puis probablement qu'ils se sont installés là suite à avoir fait eux-mêmes le chemin.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. C'est souvent le cas.
La caractéristique de l'auberge ici, tu la vois, elle est derrière nous. Ceux qui voient, je ne sais pas si c'est diffusé là, qu'on voit à l'écran, les gens nous voient sur Facebook.
Non,
ils ne nous voient pas. Ben, toi, tu le vois en tout cas, puis Frédéric aussi. Mais derrière nous, ce qu'il y a, c'est que les gens ici ont la possibilité de faire une toile, un dessin qui représente leur vision de l'expérience Compostelle. Alors, il y a des toiles partout dans l'auberge. Une centaine, sinon plus.
À ce point-ci du chemin, en fait, on est à 2 jours de marche de la ville de León, ce qui veut dire que beaucoup de gens, s'ils sont partis de Saint-Jean-Pied-de-Port, ont à peu près 3 semaines de marche de fait. Donc, le fait de faire une toile pour parler de notre pèlerinage prend encore plus de sens.
Et les toiles sont magnifiques.
Avec notre groupe, ah oui, vraiment. Très de tous les styles. Mm-hmm. Nous, ça fait 2 jours qu'on marche avec notre groupe.
Mm-hmm. Oui, mais là, oui, allez-y.
Non, ben, c'est que l'expérience, après 3 semaines, ça donne un style aux peintures, aux toiles qu'on voit derrière nous. Parce qu'on dit, il y a un type hier qui me présentait une petite application sur les états du pèlerin qui sont découpés entre le corps, l'esprit et l'âme. Et quand on arrive dans cette partie-ci, après 3 semaines de marche, c'est la partie qui travaille sur le plan de l'âme quand on arrive à cette étape-ci du parcours. Et ça se reflète beaucoup dans l'étoile qu'on va voir ici à San Miguel.
Tout à fait. Mais
à l'auberge San Miguel.
À l'auberge.
Pour ceux qui ne voient pas l'étoile, là, moi j'en vois quelques-unes là, à l'écran. Et il y en a une qui m'a interpellée particulièrement. C'est celle qui est derrière la tête à Eric.
C'est quoi? Oh, le chemin avec le cœur.
Oui, j'adore ça, oui. J'adore ça. Puis juste à côté, on dirait que c'est comme l'arbre de vie, l'autre peinture à côté. On voit les racines, puis on voit l'arbre jaune un peu. Moi, je le perçois jaune, peut-être qu'il n'est pas de cette couleur-là, mais c'est non, magnifique. Mais
il est tout lumineux, il est tout plein de lumière jaune. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette toile-là, c'est qu'il y a comme des gouttes qui sont des gouttes ou des larmes, je ne sais pas, il y en a 4 qui descendent, mais ces gouttes-là contiennent des fleurs et toutes sortes de couleurs en coulant comme de l'arbre. Fait que vous voyez, il y a quelque chose aussi dans toute la symbolique. On peut s'arrêter à chaque toile juste pour décortiquer la symbolique de ce que les gens portaient en vivant leur expérience pèlerine.
Ah, c'est tout à fait wow! Et là, en plus de ça, vous êtes sur le chemin, donc vous êtes à l'affût des dernières rumeurs, là.
C'est le sujet de la chronique.
Mais oui.
Les rumeurs, parce que les rumeurs arrivent avant que le pèlerin soit sur le chemin.
Puis c'est ça, c'est qu'on peut voir justement la différence entre les rumeurs et la réalité sur le chemin.
Mmh.
Hein? Parce que c'est ça, les rumeurs, souvent, c'est un peu comme un téléphone arabe, hein? Ça déforme la réalité. Et ça contient beaucoup de peur parfois. Ça parle de nos craintes. Ça parle surtout de la personne qui porte la rumeur. Hein, comme dans un téléphone arabe, je répète ce que j'ai compris.
oui, tout à fait, avec nos perceptions. Oui.
Je vais partager ce que j'ai vécu. Parce que là, je regarde les participants qui viennent avec nous. Ben écoute, avant qu'on soit sur le chemin, on avait eu une panoplie de questions. Et les questions qu'ils avaient parlent beaucoup plus des rumeurs qu'il y a autour d'eux autres que de leurs propres craintes. Sauf que la rumeur qui leur arrive, ben, éveille des questionnements, des inquiétudes, puis probablement que ça en décourage quelques-uns de faire le chemin et de dire « Ah, tu vas voir, tu vas faire des ampoules, il va faire chaud, tu vas marcher dans la boue, il n'y aura pas d'hébergement, tu vas faire des punaises de lit. » Écoute, on en a de tous les styles des rumeurs.
Mais là, avez-vous toutes pogné ça depuis 2 jours, là?
Oui, ben on n'a pas touché toutes les rumeurs, mais en même temps, avec les gens qui viennent marcher avec nous, on entend ce que eux ont entendu.
Exact.
Et c'est chaque personne retient ce qui l'inquiète personnellement. C'est pour ça que je dis, dans la rumeur, quand la personne nous raconte ce qu'elle a entendu, ben elle nous parle d'elle, elle nous parle de ses craintes à elle, parce qu'elle retient seulement la partie qui l'a concernée ou qui l'a interpellée, qui l'a accrochée dans ses peurs, dans ses craintes. Et puis, ben souvent, c'est ça. La principale, je te dirais, des rumeurs, c'est qu'on va manquer de place. Puis je trouve ça intéressant parce que cet été, avant qu'on arrive ici, il y a un personnage qui est très connu en France, qui a été nommé l'ambassadeur québécois sur les chemins de Compostelle, et c'est Maddy du Camino, qui tenait une auberge sur le chemin du Puy-en-Velay à Cahors. Et Maddy du Camino a laissé l'expérience d'hospitalier en auberge et est parti cet été sur les chemins avec sa conjointe. Et ils ont revécu. Puis, une des principales choses qu'il remarquait sur le chemin, c'est qu'il dit, la rumeur qui court, c'est l'autoroute. Il y a plein de monde sur le chemin. C'est surchargé partout. Il y a trop de monde. On se peut plus. Puis, il nous envoyait des vidéos régulièrement cet été en disant, regardez c'est quoi la cohue qu'il y a sur le chemin de Compostelle cet été. Et il était seul sur le chemin.
Et
il y avait des grands moments de solitude.
Et Éric, Brigitte, c'est une des raisons pour laquelle je n'ai pas choisi de faire le Camino Frances.
Ah.
Que je m'étais dirigée vers d'autres parce que tout le monde racontait ça.
Mais tu vois, c'est ça que je disais. La rumeur, elle nous arrive porteuse de mauvaises nouvelles. Hein, souvent, c'est ça. Puis décourageante. Et ça va avoir un impact si je décide de l'écouter. Elle vient en quelque part me toucher, me questionner dans la décision que j'ai à prendre. Est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas? Parce que la rumeur, elle est non fondée. Elle est souvent d'une source imprécise. Ça circule. Circule parce que ça fait peur.
Est-ce que c'est parce que c'est la COVID qui a fait ce changement-là également? Est-ce qu'elle a contribué à ce que le chemin soit moins populaire?
Non, je te dirais, c'est, les rumeurs ont toujours couru sur le chemin de Compostelle. Oui. Parce que moi, dès la première fois, en 2007, que j'ai fait le chemin, on était à la première journée à Saint-Jean-Pied-de-Port, on s'en allait à Roncevaux, et déjà, il y avait des rumeurs de ce type qui couraient sur le chemin, et on était à mi-chemin de la montée, à traverser les Pyrénées, et déjà, il y avait des gens qui se mettaient à dire « Dépêchez-vous, ça a l'air que l'auberge est complète à Roncevaux. Il y a 400 lits à Roncevaux. » bon, fait que cette rumeur-là courait en 2007. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux à aller sur le chemin. Ça se peut que l'auberge soit complète, mais ils ont des solutions. Oui. Il y a autre chose. Il n'y a pas qu'une auberge complète au bout de cette étape-là. Il y a des solutions pour qu'on puisse héberger. Surtout que les Espagnols se font un point d'honneur à héberger tout le monde.
Oui.
Ils sont hyper accueillants.
Oui.
Oui. Et en fait, la règle qu'on va entendre et qui n'est pas une rumeur, c'est en Espagne, généralement, de toute façon, tu n'as pas le droit de réserver. Et ce n'est pas nécessaire parce qu'on va t'héberger.
Mmh. Il y a des hébergements où on peut réserver, c'est des hébergements privés, mais tout ce qui est donativo, les auberges municipaux, communales, l'auberge paroissiale, dans ces auberges-là, on ne peut pas réserver et ils offrent des places. Et s'il arrive à un moment donné qu'on est dans une auberge municipale puis l'auberge est complète, ils vont finir par ouvrir un autre petit local à côté où ils organisent un service de transport jusqu'au village suivant pour que tu sois hébergé. Puis ils vont te ramener à ton point de départ le lendemain matin.
Oh my God, ça me rappelle des souvenirs. Oui.
Oui.
Vas-y, Brigitte.
Une rumeur qui circulait quand on le faisait en été, c'est on le fera pas en été parce qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est la haute saison. Ouais. Puis quand on est venu en juillet, les hébergeurs qu'on a rencontrés nous ont dit non, juillet, c'est pas la haute saison, c'est la basse saison.
Une
saison intermédiaire parce que la haute saison, elle est en automne.
Et en juin.
Entre les. Parce que la plupart des gens tentent d'éviter les chaleurs. Donc, la rumeur, encore une fois, était non fondée.
Oui, mais là, avec le réchauffement de la planète, de toute façon, on ne sait plus quand est-ce qu'il fait beau puis qu'il fait chaud.
Mais c'est ça.
C'est vrai.
Puis, on est surpris, même en été, les gens vont dire aussi vas-y, pas en juillet, il fait beaucoup trop chaud. Oui, il fait chaud. Mais ce n'est pas toujours comme ça. C'est ça qu'il y a aussi dans la rumeur. On ne retient que l'élément qui nous accroche, qui nous écorche.
Oui.
Et, c'est ça. On le fait souvent, nous, en juillet. Et oui, il fait chaud. Mais c'est pas toutes les sections. On arrive dans différentes étapes. C'est sûr que la meseta en juillet, elle va être chaude. Mais on se prépare à la vivre et c'est une expérience. Ça fait partie de l'expérience du chemin et ça suscite toutes sortes de choses. Puis ça, je pense, c'est une chose qui est importante que les gens doivent savoir. Vivre Compostelle selon différentes saisons va faire en sorte que, ben, de toute façon, peu importe si tu le refais toujours au même moment, le chemin ne sera jamais le même. Parce que la température n'est pas la même, parce que les gens ne sont pas les mêmes, tu ne fais pas nécessairement les mêmes étapes à chaque fois. Alors, on ne peut pas se fier à ça.
Hein? J'ai le goût de dire, la rumeur à part du vécu d'une personne. Parce que je pourrais rencontrer quelqu'un qui va me dire, vas-y pas en mai, il pleut tout le temps, parce que son expérience, cette année-là, le mois de mai était pluvieux. Mais on a eu des mois de mai qui ne l'étaient pas. Fait que la rumeur à part d'une expérience d'une personne, ce qui ne veut pas dire que c'est une généralité.
Tellement. Je ne ferai pas grand controverse ce matin, hein?
Mais on a malheureusement tendance à se laisser influencer par cette rumeur-là, hein? Et à poser des questions et fouiller alors qu'elle part d'une source qui n'est pas fiable. Elle part d'un individu.
Oui, puis Brigitte, même quand on va valider nos sources, on est tellement convaincu que c'est ça la réalité qu'on dirait qu'on va valider auprès des personnes qui ont vécu la même sapristi d'affaires. Et qu'on ne rencontre pas la personne qui va nous dire « Ben voyons donc, moi, mon expérience a été carrément super au mois de mai, par exemple. » C'est pas vrai, il n'y a pas plus.
Oui.
Zéro goutte. On ne la croisera pas nécessairement, cette personne-là. Ou si on n'en a qu'une qui nous raconte ça sur 10, on ne la croira pas.
Oui, c'est tellement vrai.
Et des fois, on va retenir seulement celle qui nous a dit que c'était pas beau, puis toutes les autres qui ont dit que c'était beau. On les oublie tout à coup.
Vraiment? Alors,
c'est drôle comment on va fonctionner dans le rapport à ces rumeurs-là. Puis c'est pour ça que je dis, on ne retient que ce qu'on ne veut retenir dans la rumeur. Mm. Ce qui vient nous chercher, fait que ça parle de moi en particulier quand je répète la rumeur ou que je redis. Puis c'est ça, un autre élément qui est important souvent, c'est que justement, on va avoir beaucoup de peur sur la manière de se préparer à vivre. Parce que la personne qui va te dire comment se préparer à vivre le chemin de Compostelle va te parler de ses propres peur, de ses propres craintes. Puis si la personne a trouvé ça difficile parce que j'aurais dû être équipé de comme si on aurait dû me dire qu'il fallait que j'aie tel type de bas, tel bâton, tel sac à dos, tel chapeau, tel des guêtres aussi ou ça. C'est tout des détails, ça. C'est sûr qu'il y a un minimum à préparer. Sac à dos, bottes, bon, d'être bien équipé, confortable, surtout. Après ça, tout le reste, là, c'est va le vivre.
Oui.
Va le vivre. Et ça va être riche dans ton expérience. Plutôt que d'emporter toutes les craintes des autres. On peut te dire, porte des chandails en laine de mérino puis qui vont te coûter 150$ le chandail. C'est pas grave si tu pars avec un chandail de coton, hein, c'est que t'as payé 15$ chez Walmart. Tu sais, ça va être bien correct aussi. Tu verras bien, il y a plein d'Espagnols ici qui viennent marcher sur le chemin, des fois juste en gougoune.
En sandales avec des bas dedans.
Parlant des Espagnols, est-ce que c'est une rumeur ou c'est vrai que les Espagnols, ils mettent ça sur leur CV et que ça a un impact, le fait d'avoir fait le chemin?
Ben, tu vois, je ne l'ai jamais vérifié, mais je l'ai entendu souvent, cette rumeur-là, que même, j'ai même entendu, c'est intéressant, c'est ça, là, toutes les rumeurs qu'il y a, que c'est même crédité à l'université si tu as fait le chemin de Compostelle. J'ai entendu que c'était bien vu de le mettre sur le CV, comme tu dis. J'ai entendu aussi qu'on recommandait aux migrants qui arrivent en Espagne de venir marcher Compostelle pour s'imprégner de la culture espagnole si elles veulent venir vivre ici.
Wow! Éric, il y a des belles pistes à ramener au Québec là, dans le programme à l'université. Là. Hein? Les Québécois pourraient aussi faire leur Compostelle. Je trouve
juste au Rocher Percé.
Oui, il pourrait.
Oui, tout à fait.
Mais c'est vrai, même si c'était une rumeur, je crois que c'est une belle perspective que de dire aux migrants, ben, viens marcher le pays que tu veux habiter, puis tu vas apprendre à le connaître en même temps, tu vas le vivre. Parce que ça, c'est la chose la plus extraordinaire dans ce qu'on fait ici, c'est vraiment vivre un pays que de le marcher. C'est pas la même chose que de le parcourir dans un autobus qui nous arrête d'un point d'intérêt ou de le faire en auto ou en moto, à pied. Je prends le temps de rencontrer les gens. Combien de personnes nous arrêtent en marchant? On parle pas nécessairement bien espagnol, mais on rencontre des Français, des Anglais, des Allemands, des Danois. Il y a des gens de partout et on jase. On a rencontré plusieurs Australiens, beaucoup d'Australiens en ce moment, des Coréens qui sont ici. On rencontre des gens de partout et les gens parlent même malgré la barrière de la langue. Puis ça c'est riche, c'est d'une manière extraordinaire quand on est sur le chemin.
Puis on vit la générosité des Espagnols qui prennent le temps de nous indiquer le chemin, qui prennent le temps de nous accueillir dans les difficultés qu'on va rencontrer. Tu vois, ici à l'auberge, on a une de nos pèlerines qui avait besoin d'un médicament, mais la pharmacie, ben on est dimanche, alors elle est fermée. Et puis, la responsable à l'auberge, elle a dit, attends, elle a pris son auto, est allée chez elle, elle y en a rapporté quelques cachets. Alors, les Espagnols, là, envers les pèlerins, ils sont très, très généreux, très accueillants, très accommodants. Et ça, c'est pas une rumeur.
Non.
C'est un fait vécu.
C'est l'expérience qui parle, là, aussi. Hein? C'est parce qu'on le vit qu'on va s'en rendre compte que c'est comme ça. C'est sûr que si j'arrive avec une attitude qui s'oppose à la différence, qu'il y a de la difficulté à accueillir ce qui n'est pas pareil comme chez nous, le fait que j'aie pas mon pot de beurre de pinot à tous les matins, ça tente, ça va être difficile pour la personne qui est là et elle risque de réagir à l'expérience. Et là, ça lance des rumeurs aussi, ça aussi, sur ce que c'est.
Gang, si vous attendez à manger des œufs à tous les matins, oubliez ça!
Exact, t'as tellement raison.
Moi, j'ai souffert de ça sur le chemin, honnêtement. Mais oui,
c'est tellement drôle que t'apportes ça. Tellement drôle parce que c'est un commentaire qui revient avec nos groupes de Québécois. Ils disent « Ouais, j'ai pas ma protéine pour partir marcher. » Mais ça, c'est dans notre réalité, mais c'est pas dans la leur.
Oui, comment on a développé ça comme culture, de dire « Ça nous prend une protéine pour marcher, pour partir faire du sport le matin avant commencer, il faut que j'ai une protéine. » Alors que les Européens, ben, il n'y en a pas de protéines le matin.
Et peut-être que c'est de l'ordre de la rumeur québécoise de croire que ça prend une protéine pour aller marcher. Mais ça, c'est peut-être une autre histoire. C'est une autre chronique.
C'est possible, effectivement. Oui, parce qu'on en a plein.
Ça semble être une mode. Une mode qui est pour chez nous, qui est nord-américaine.
Ah, y avez-vous d'autres rumeurs? Moi, j'aime ça. En avez-vous d'autres?
Ben, moi, je disais à Eric, c'est intéressant de voir les rumeurs.
Brigitte et Eric, Frédéric aurait une question. Est-ce qu'on lui permet la parole?
Ah, bien sûr!
Vas-y, Frédéric.
Simplement, pour un ou une pèlerin, est-ce que le niveau d'influence face à la rumeur change dans le temps du parcours? Le genre, ça peut durer.
Quelle belle sensation! Oh, oui.
Si le pèlerin entend la rumeur au début, est-ce qu'il va être plus affecté ou moins qu'après 2 ou 3 semaines de marche?
Ben, moi, j'ai le goût de dire, en fait, nos pèlerins et pèlerines sont affectés avant d'être sur le chemin parce que tout leur entourage, dès qu'ils disent « je m'en vais faire le chemin de Compostelle », ils se font bombarder de peurs et de rumeurs de toutes sortes. Fait que là, ils viennent valider auprès de nous. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai qu'on peut plus avoir de couverture sur le chemin? C'est-tu vrai qu'on risque d'avoir des punaises de lit? C'est-tu vrai que... qu'est-ce qu'on s'est fait dire aussi? Qu'il va falloir réserver à l'avance nos hébergements. Fait qu'ils viennent me valider, mais ils sont bousculés, chacun dans leur peur, comme disait Eric. Mais après ça, sur le chemin, ben, ils s'en rendent bien compte.
C'est l'expérience qui va leur permettre de traverser ça. Puis comme tu le dis, Frédéric, ben c'est ça, c'est avec le temps. Plus j'avance, plus l'expérience contraire me dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ou oui, c'est arrivé, mais c'est arrivé une fois, exact. Peut-être deux. Le reste de mes 10, 15, 20, 30 jours de marche, ben ça a été autre chose. Ce n'était pas que ça. À l'inverse, c'est aussi vrai aussi quand il y en a qui vous disent « ce n'est que bucolique marcher dans les chemins de Compostelle. On est toujours sur des beaux petits sentiers de campagne. » Ben c'est pas vrai parce qu'on marche sur de l'asphalte des grands bouts de temps parce que là, nos deux premières journées, c'était une bonne partie d'asphalte. On traverse des quartiers industriels poches, des quartiers où c'est pas agréable de marcher. C'est la réalité, mais c'est seulement une partie. Si je ne retiens que ça, puis je raconte ça en revenant, ça part des rumeurs, ça aussi, là. Mais c'est comme je dis, chacun doit faire son expérience. Quand j'arrive avec mes peurs sur le chemin, on peut leur dire, ben, tu vas voir, nous, on n'a pas expérimenté. Ça peut arriver. Les punaises de lit, ça peut arriver. Ça peut. Mais c'est pas une généralité. Hein? Puis ça s'arrange. Il y a quelque chose. Il y a toujours une solution. Ça aussi, c'est une affaire. On nous demande, qu'est-ce que tu vas faire si ça arrive? On va regarder ce qui va se passer, où on va être, puis dans quel contexte. Si je me blesse sur le chemin, qu'est-ce qu'on fait? On va voir qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer.
Puis en même temps, comme le chemin de Compostelle, c'est un espace d'apprentissage, bien, tu te dis, OK, maintenant que je suis rendue sur le chemin, puis je regarde comment j'ai été bousculée et affectée par les rumeurs avant que je marche, OK, comment à ça je vais prendre en considération les prochaines rumeurs dans les prochaines décisions que je vais vouloir prendre? Le jour où je décide de me séparer, le jour où je décide de quitter mon emploi, le jour où je décide de prendre ma retraite active, hein, là, je vais en avoir plein des gens qui vont me bombarder. Mais là, je vais avoir fait une expérience sur le chemin de Compostelle qui va m'avoir dit, écoute, je vais me faire ma propre tête. Comment je vais me laisser affecter par les rumeurs? Parce qu'il y en a tout le temps. Peu importe le domaine que je vais prendre, la voie que je vais prendre, il va en avoir.
C'est tellement vrai, hein?
J'aime beaucoup, oui.
T'aimes ça, toi aussi, hein? As-tu déjà fait Compostelle, toi, Frédéric?
Non, je connais de nom simplement.
OK, bien, tu vois, on va t'initier à la longue.
Actuellement, il y a des expériences qui commencent à semer et à grandir.
Ouais.
Mais pas de cette envergure-là pour le moment.
Puis là, sais-tu pourquoi je le sais qu'on va t'initier à ça? Parce que ta chronique suit toujours celle de Eric. Okay. Et Brigitte. Donc, à chaque semaine, on va ajouter des petites graines dans ton corps. À chaque mois, on va ajouter on va l'arroser. Là.
J'ai été pris au piège,
tu vas voir. Ah, non, c'est très, très tout inconscient, là, tout ce qu'on va te faire. T'as pas idée. Non? Mais effectivement, on donne avec la chronique que vous faites, Éric et Brigitte, on donne le goût aux gens de sortir de leur divan, d'aller marcher. Ça, c'est le commentaire que je reçois parfois. Et on m'avait demandé, est-ce que Brigitte et Éric vont être encore là cette année? Bien sûr. Bien sûr.
Mais oui, ça nous fait plaisir en plus d'être là.
Promouvoir l'activité physique, c'est la base. Puis moi, personnellement, je trouve que la marche, c'est l'affaire la plus simple à intégrer dans notre vie.
Puis tu dis, c'est l'activité physique. Ce n'est pas qu'une activité physique. Ça, c'est une grande partie, c'est sûr, de marcher comme ça. Mais c'est une activité, je dirais, globale. C'est une approche très holistique de notre humanité parce qu'on touche toutes les phases. Oui. Ça nous affecte à tous les niveaux parce que oui, je vais partir marcher, mais la fatigue tranquillement me fait tomber mes résistances psychiques. Puis il y a autre chose qui ouvre. Puis dans ce mouvement-là, il y a toute l'expérience spirituelle aussi qui vient reconfigurer ma vie, penser ma vie autrement, confronter à des difficultés, à des bonnes choses ou à la simplicité de la vie que j'expérimente sur le chemin.
Puis tu vois, puis peut-être ça risque d'être une petite conclusion, mais aujourd'hui, on a rencontré un pèlerin qui disait que lui, il s'était mis à l'écoute de sa troisième voix.
Oui.
On dit souvent que dans nos têtes, hein, on s'astine avec soi-même puis qu'on a deux voix qui se parlent.
Oui.
Puis lui, il dit dans sa décision, il a écouté la troisième voix. Mm-hmm. Fait que peut-être que dans les rumeurs, il faudrait peut-être apprendre à se mettre à l'écoute de cette troisième voix.
On pourra s'en reparler, mais la troisième voix, c'est vraiment intéressant.
Ouais. Hey, oui, je suis en train de me prendre une note, là, puis j'ai mis un petit cœur à côté de ma note. J'aime ça. Vous venez de piquer la mienne, ma curiosité. Je ne sais pas si on piquait la tienne aussi, Frédéric. Oui, ouais, la troisième fois. On aime ça, ces affaires-là. En tout cas, ceux qui écoutent Vente fraîcheur aiment ça. Sinon, ils ne nous écoutent pas. Mais c'est le genre de show. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Puis on ne changera pas le contenu de l'émission. On est la seule émission radiophonique.
Mais tu as raison, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour entrer dans cet espace-là qui n'est pas du rationnel,
hein,
qui parle au niveau du cœur.
Oui, mais de tout, là, vous l'avez dit d'entrée de jeu, là,
oui.
Le corps, l'esprit, l'âme, tout, absolument tout. Et de la façon que vous nous apportez les chroniques, Brigitte et Éric, on fait toujours le tour de tout ça pour vraiment être dans notre âme, que j'ai envie de dire. Et là, ce matin, ben, on a fait un super tour d'horizon des principales rumeurs de Compostelle. Puis je pense qu'on a réussi peut-être à démystifier ou à défaire certaines croyances qui probablement limitent certaines personnes à aller faire le chemin. Ouais.
Mm-hmm. Ah, oui,
merci.
Tout à fait.
Merci pour ça. Le mois prochain, vous revenez nous voir avant de fraîcheur, le 22 octobre. Vous allez nous parler de quoi déjà?
C'est ça que je cherche.
Ouais, attendez,
là,
je
oui, tu nous prends au clair parce qu'on a passé notre plan avec nous.
On n'a pas la tête à ça présentement.
Ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Éric et Brigitte ne sont pas à leur affaire. Non. Je vais vous le dire, on parle du blues du pèlerin. Puis là, vous allez être de retour, je pense, de votre voyage.
C'est tellement important en plus.
Oui,
on va parler de ça parce que vous allez être de retour, je crois, d'un pèlerinage en plus de ça. Fait que vous allez être,
on revient le 15 octobre.
Vous allez être en plein dans cette période-là de blues, ça va être phénoménal, la prochaine chronique. Merci, Brigitte et Éric.
Ben, merci.
Ça a été un plaisir. On est content de relancer la saison avec toute l'équipe.
Et comme on dit sur le jargon du chemin, buen camino, ultrayant.
Oh, buen camino.
Gracias.
Merci.
Après la pause, on va y aller avec toi, Frédéric. Après la pause, tu vas nous parler de la bourse pour les nuls. Moi, je vais être très, très, très attentive. Je suppose que je vais tout comprendre, mais je vais t'écouter attentivement parce que je me considère dans les nuls. Merci, Brigitte et Éric.
Bye bye.
Après la pause, on se retrouve, ma belle gang.
Ôtez-vous de l'or. CJMD 96.9. 96.9.
C'est là, la chanson.
Quelle chanson?
C'est pour les CVS. C'est là, ça
chute.
La chanson.
On dit rien.
Ben oui, c'est.
Pour des vrais connaisseurs de musique, écoutez le Party 969. C'est la seule émission dance au Québec sur l'ensemble des stations francophones. Avec Dominique Perrault et toute sa clique, du gros fun tout en musique. Tous les vendredis de 15h à 20h et le samedi à 18h.
Dit du houblonneux.
C'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub.
Qui est là?
969 CJMD.
Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente fraîcheur.
CJMD.
J'ai failli parler par-dessus ça. J'avais pas vu que j'avais laissé ça là. Ma belle gang, si vous êtes pris dans le trafic, sachez que je vous envoie tout plein d'amour. Ouais. Soyez patients. Si vous êtes en direction sud, en train de traverser le pont Pierre-Laporte, c'est pas rouge. Écoute, c'est tellement foncé le rouge sur la map là, du 511, là, c'est ça. C'est rouge vin. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire de prendre un petit verre de vin en attendant dans le trafic. Là. Pas ça, pas en tout. Mais faites comme si vous étiez en train d'en boire un relax dans votre salon. D'après moi, ça va vous aider un petit peu. Parce que sérieusement, c'est hyper congestionné. Probablement que ça doit prendre plusieurs minutes de traverser. Je crois qu'il y a des travaux dans le coin, à la sortie du pont. Comme pour s'en aller vers la Beauce, si j'ai bien compris, sous toute réserve. Mais bref, prenez votre mal en patience, que j'ai envie de dire, c'est le temps de nous écouter dans le fond, puis de relaxer avec nous autres. Et peut-être même de faire de l'argent, parce que Frédéric va nous parler de la bourse. Puis je veux vous dire, si vous êtes dans votre char, sûrement que vous avez mis vos lunettes de soleil d'en face. Parce qu'il y a un méchant beau gros soleil ce matin. Du côté de Lévis, c'est 16 degrés, température ressentie de 16. Cette semaine, les températures vont être au-dessus du 20. Est-ce que c'est ça l'été des Indiens? Ça prend combien de jours déjà pour que ce soit l'été des Indiens? C'est-tu 5 jours consécutifs de beau temps? C'est ça que j'ai en tête, mais là, c'est peut-être une rumeur.
On l'entend quand on est dans la phase chaude, mais...
Ouais, je sais pas si c'est une rumeur. Bref, demain, il annonce un beau 16 ensoleillé. Mardi, encore ensoleillé avec 19. Et à partir de mercredi, 21 ensoleillé. Jeudi, ensoleillé 22. Vendredi, ciel variable 22. Samedi prochain, encore ensoleillé 22. Dimanche prochain, généralement ensoleillé. Là, je vous entends dire, mais non, ça ne te donne rien de nous dire tout ça. Tu sais bien que la météo, elle change tout le temps. Ouais, mais c'est ça présentement. Donc, j'ai fait ma job. Je vous ai donné quelques informations. Maintenant, vous en faites bien ce que vous voulez, ma belle gang. Ça vous appartient. Frédéric!
Bonjour.
Bonjour. Frédéric Huillon, le financier. Tu as déjà fait des chroniques avec moi par le passé.
Je m'entends pas beaucoup.
Tu m'entends pas beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hein? Et tu as déjà fait des chroniques avec moi par le passé,
oui.
À l'émission. Donc, c'est un retour parce que j'avais une place de libre puis je te l'ai offert puis tu as accepté. C'est aussi simple que ça. Des fois, j'ai des refus. Hein, ça, j'ai pas toujours des oui du premier coup. Mais Frédéric a dit intéressant, je vais y réfléchir. Puis finalement, il m'a dit oui. Fait que je suis bien contente. Et je suis encore plus contente parce que je suis un peu égoïste. Là. Ça va me rapporter à moi aussi. Parce que je connais pas ça, la bourse. Tu sais, je connais ça de mes études, genre secondaire 5, à la Poly de Black Lake, qu'on avait parlé de la bourse avec... Là, le nom du professeur m'échappe. Mais c'est ça. Fait que, Frédéric, la bourse pour les nuls. Merci de nous aider. Je suis persuadée que nos auditeurs ont besoin d'aide aussi. S'ils ont des questions, ils peuvent toujours les envoyer au 418-903-5969 par texto, s'il vous plaît. Je vais les prendre là. Alors, re-bienvenue à l'émission Vente fraîcheur, Frédéric Huillon, le financier. Et parle-nous de la bourse pour les nuls. Pourquoi c'est-tu si compliqué que ça?
Alors, en premier, merci de m'avoir réinvité à reprendre le micro.
Ça fait plaisir.
Peut-être pas des nouveaux sujets, certains oui, certains non,
okay.
Mais sous des angles peut-être différents qui ont déjà été abordés.
OK, cool.
Là, c'est sûr qu'on a à peu près 20 minutes, une demi-heure. Parler de bourse, le 14 octobre, je vais donner vraiment un atelier conférence de 2-3 heures que sur ce sujet-là. Donc, je vais beaucoup plus en parler en détail à ce moment-là. On pourra, là, je sais pas de quelle manière... donner les coordonnées de Stéphane Boutin, qui est l'organisateur de cette rencontre-là du 14 octobre.
Bien, sais-tu quoi, Frédéric? Je vais la chercher sur le Facebook et je vais la partager.
Parfait.
Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire.
Beaucoup de gens, ça fait peur. Juste entendre la bourse, c'est sûr que... Je sais que Manon m'a soufflé à l'oreille hier ou avant-hier qu'elle avait écouté un film... Qui, quant à moi, c'est en arrière des rideaux, les transactions d'initiés
oui,
et tout ça.
Tu fais bien d'en parler parce que moi, j'ai préparé ma chronique, la bourse pour les nuls, comme si c'était moi qui faisais la chronique. J'essaie toujours de me documenter. Et là, pour le faire, j'ai écouté sur Netflix Les loups de Wall Street.
Oui.
Bon, à partir de là, je pense que j'ai bien découragé Frédéric, mais ça, c'est un autre dossier.
Et là, maintenant, je profite de l'occasion de faire un lien avec la séance avant moi, des rumeurs. Donc, si on écoute ce genre de film-là, de choses extraordinaires, les gens perdent des rumeurs de ce que c'est que la bourse. Et effectivement, ça peut faire terriblement peur de voir ces arnaques qui peuvent se passer là, dans la haute société financière. Mais à la base, la bourse, j'avais écrit comme premier point, merci la bourse. Mais pourquoi? Parce que la majorité des grosses entreprises qui sont à la bourse actuellement, bien, n'auraient jamais vu le jour s'il n'y aurait pas eu de financement par la bourse. Une entreprise qui veut débuter, elle prend ses propres fonds, les fonds des premiers propriétaires proches de la personne qui veut développer l'entreprise. Et après ça, elle va cogner à la porte d'une banque et la banque, elle dit, ben moi, je suis prêt à te prêter, mais pas 100% de ce que tu as besoin. Et la porte de sortie pour ces entreprises-là qui voient grand et qui ont des outils, des produits pour monsieur, madame, tout le monde pour satisfaire X besoins, Y besoins, bien, la porte de sortie, c'est d'y aller de façon à injecter, demander à des actionnaires, donc les gens qui achètent des actions à la bourse deviennent des actionnaires et ces personnes-là investissent dans une entreprise, donc l'argent va dans les poches de l'entreprise qui va la gérer. Donc ça, c'est la base de qu'il faut savoir, là, que quand on achète une action, bien l'action, c'est une partie d'une entreprise. Avant d'entrer en onde, j'avais dit à Manon, le 14, je vais joliment m'amuser, on va comme concevoir une entreprise fictive et expliquer un peu plus le côté de qu'est-ce qui se passe, l'offre et la demande, qu'est-ce qui fait qu'une action monte ou descend. Aujourd'hui, je veux pas rentrer trop dans ce détail-là. Ce que je veux continuer aujourd'hui, c'est que les gens, à la base, quand ils embarquent dans ce monde-là, il y a deux modes d'analyse qu'on peut utiliser. Si on y va du côté à un personnage très bien connu à la bourse, Warren Buffett, qui est un multimillionnaire, oui, milliardaire de la bourse, bien, c'est un adepte de ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Lui, quand il va investir dans une entreprise, bien, il va s'informer du marché, voir la tendance du marché. Il va s'informer beaucoup sur les dirigeants de l'entreprise. S'il y a eu un nouveau dirigeant qui rentre, d'où il vient, quelle est sa réputation. Et s'il y a des rumeurs, on verra. Il regarde beaucoup les états financiers et il fait ses calculs en disant, ben, cette entreprise-là, normalement, elle devrait valoir 200 $ l'action et présentement, sur le marché, elle est à 50 $ Donc, lui, chaque entreprise va faire une méga grosse analyse. C'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. De l'autre côté, on a l'analyse technique. Cette analyse-là se base beaucoup sur les graphiques. Et ce qui est, moi, j'aime beaucoup plus cette section-là qui demande beaucoup moins de temps. Le précepte de cette analyse-là, c'est que une image vaut 1000 mots.
Oui.
Donc, en quelques minutes, je peux descendre plusieurs graphiques et voir les tendances sans savoir si l'administrateur, le gérant, le dirigeant est bon ou pas. S'il n'est pas bon, l'action va bouger en descendant. S'il y a une mauvaise nouvelle dans le monde, l'action, on a juste à penser dernièrement la pandémie, le marché a totalement chuté d'un pourcentage énorme.
Oui.
Bien, l'entreprise, qu'elle était bonne ou pas, la pandémie n'a pas posé de question. T'es une bonne entreprise, je te laisse. Le marché a décidé qu'il partait en bas, tout a descendu. Donc, pour ça qu'une
image... C'est la loi de la gravité, ça, tout a descendu.
Oui, la gravité était très forte à ce moment-là. Donc, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça et je veux juste raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. J'étais peut-être dans la 25-30 ans et j'étais déjà intéressé et passionné par ce sujet-là. J'ai assisté à deux rencontres, pour ne pas nommer Desjardins, qui faisait des rencontres mensuelles et qui parlait de bourse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, du boom économique, de la bulle spéculative sur la technologie. Et Nortel faisait partie des rois et maîtres à ce moment-là, qui a monté jusqu'à 125 $. Et à la première conférence que je vais de soir, il y a eu une pause. Et à la pause, dans les corridors, ben j'entendais des gens qui disaient « Hey, Nortel était à 125, il est entre 80 et 85, c'est le temps de l'acheter, c'est un bon prix. » Et comme je viens de dire juste un petit peu avant, moi, je suis plus graphique. Donc, en revenant chez moi, j'ouvre mon ordinateur, je regarde le graphique et tout ce que je vois, c'est de 125 à 80, 85, ça descend. Et dans ma théorie de l'analyse technique, quand ça descend, il faut que ça nous donne un signal de remontée avant de rembarquer. Donc, je me suis dit, je le garde en suspens, puis
parce que ça peut descendre longtemps, là. Ça pourrait descendre longtemps.
Oui. Le mois d'après, je retourne une deuxième conférence. Et qu'est-ce que j'entends pas dans les corridors à la pause? Nortel est entre 60 et 65. Il était à 125. C'est le temps d'acheter. On parle de rumeurs, on parle de... Comment on appelle ça des fois? De, j'ai pas le terme en tête. Là,
des croyances?
De non. Tuyaux.
De tuyaux, tuyaux, OK.
Donc là, les gens se donnaient ce magnifique tuyau-là. Fait, qu'est-ce que j'ai fait quand je suis revenu à la maison?
T'as regardé tes graphiques.
Le graphique. Il était à 125, il a passé par les 80-85, il est rendu à 60-65, et il n'y a rien qui m'indique sur ce graphique-là que c'est sa fin qui repart par en haut. Et ceux qui ont quand même un petit peu de connaissance et d'âge qui l'ont entendu, Nortel a descendu en bas d'un dollar.
Ish!
Donc, imaginez les fameux tuyaux dans les pauses, comment ça peut être... On parle de rumeurs, c'est totalement des rumeurs de dire, ben, c'est, quand ça descend, vu que c'était haut, ça va remonter.
Ouais. Fait que là, les gens ont perdu remonter. De l'argent.
Exact.
OK. Donc, faites attention aux rumeurs. Faut se mettre comme des moyens de protection quand on... Est-ce qu'on dit encore qu'on joue à la bourse?
Ben, l'expression est encore bonne. Dans mon cas, vu que c'est une passion,
Tu joues pas.
J'aborde dans ce sens-là. Je
OK,
joue.
Tu joues.
Mais j'ajouterais, je joue pour gagner.
Oh! Oh!
Donc, on comprend le message.
Je veux être dans ton équipe.
J'apprends de mes expériences pour que les fois d'après, je ne perde pas trop souvent. Donc, oui, c'est impensable de dire que je gagnerai à 100% des cas. Mais si je gagne à 60-65 des cas, ben, au bout de la ligne... je suis rentable.
OK. Mais
je
là.
Vois dans ce sens-là.
Ça, là, vraiment, là, on part du principe qu'on ne s'y connaît rien, là. On est nul en bourse, là. Quand on commence à regarder ça, à vouloir jouer avec ça, là, on s'y prend comment? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut regarder ça à toutes les minutes, à toutes les.
Ben, ça,
il me semble que c'est lourd, cette affaire-là, sur mes épaules. Je ne sais pas si c'est comme ça pour nos auditeurs. Là.
C'est à la bourse, c'est un sujet que j'avais mis à part après, mais je
l'ai. Ah, ben vas-y, on peut traiter. Oui.
C'est sûr que. Je veux juste faire une petite parenthèse, puis
oui?
Je reviens
oui,
rapidement.
Oui, oui.
On regarde les dépôts à terme, les obligations d'épargne. Soit du Canada ou du Québec,
ouais.
Les taux d'intérêt qu'ils nous donnent et le taux d'inflation, et ça ne rapporte pas bien, bien.
Effectivement.
Mettons qu'un dépôt à terme donne 5 % puis le taux d'inflation, là, il a rebaissé, merci, qui est à 3-4 % ben 5 moins 4, mon rendement est de 1 % Donc ça, quelque part, moi, ça fait longtemps que j'aime la bourse et que je sais que si je réussis à tirer mon épingle du jeu, je vais être réellement... plus gagnant que de le laisser dans un dépôt à terme qui ne rapporte pas. Mais c'est certain que monsieur, madame, tout le monde, on aime pas. Qui aime ou qui aime pas, il y a une décision à dire, ben si je veux tirer mon épingle du jeu moi aussi, de quelle façon? Et là, il y a comme un choix de dire combien de temps je suis prêt. Un, il faut que j'aille chercher un petit peu de connaissances, bien entendu, parce qu'on n'y va pas que sur les tuyaux. on vient d'expliquer un petit peu que les tuyaux ne sont pas toujours gagnants.
On vérifie auprès de qui nos tuyaux aussi. Hein?
Oui. Ouais. Et donc, il y a une petite base de connaissances que je vais vraiment là, expliquer plus le 14 octobre. Et après ça, ben, c'est de dire combien de temps je veux mettre. Si je travaille 60 heures, 70 heures par semaine, ben, ça me tente pas moi, de regarder 10-15 minutes à tous les jours en revenant du travail, puis je suis fatigué. Puis, donc, est-ce que la personne est prête à mettre 5-10-15 minutes par jour? Est-ce qu'elle est prête à mettre 5-10-15 minutes par semaine, par mois, par trimestre? Donc, selon l'intérêt et le temps que la personne veut mettre à la bourse, ben là, elle va déterminer. Si elle y va une fois par mois, ben c'est certain qu'elle n'ira pas dans de l'investissement à court terme. Parce qu'à la bourse, c'est ça, c'est qu'un dépôt à terme, on est habitué, c'est ça, habitué, le terme est bon, de dire, ben j'ai investi aujourd'hui, puis j'ai investi pour un an, deux ans, trois ans. Ouais. Donc, j'ai aucune surveillance à faire. On me promet du 3-4 %, ben dans
c'est
un an,
c'est quand même le fun, ça, là, cette technique-là, Frédéric, là. C'est quand même le fun, cette technique-là, de dire je place mon argent, je n'ai pas à m'en occuper, puis exact. Ça va fructifier tout seul.
Mais
ce n'est pas le cas à la bourse.
Oui, ça a un coût parce que j'ai pas grand-chose. Puis avec le taux d'inflation, je perds quasiment. Donc à la bourse, c'est là, c'est dire faut que j'y mette un petit peu plus de temps. Et okay. C'est là qu'on rentre. Si je ne veux pas mettre beaucoup de temps, ben, je vais y aller avec des stratégies plus à long terme. Donc, à long terme, mais mon choix d'action, mon prix à l'achat n'est pas très important parce que je veux le posséder 6 mois, 1 an et plus.
Mm.
Donc là, on y va même avec un petit peu plus une option d'analyse fondamentale, dire ben le marché il est comment, quel secteur a l'air à vouloir performer. Donc, je m'en vais dans ces grandes lignes-là. Et plus je vais rapetisser, plus je vais être prêt à mettre de temps jusqu'à dire à tous les jours, 5-10 minutes, ben je vais prendre des stratégies plus à court terme. Donc là, il peut y avoir des petits mouvements à moyen terme, courts, qui fait que j'embarque dedans, mais dans 10 jours, 20 jours, je...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Je vais être débarqué parce que le cycle est fini. Donc, c'est ce côté-là qui est le fun. Et là, c'est sûr que l'extrême, il y a des gens qui passent leur journée devant l'écran pour faire ce qu'on appelle du day trading. Donc, le matin, ils n'ont rien d'investi à la bourse. Ils ont peut-être, peu importe le montant, à 50, 100 000, peu importe le montant qu'ils ont, ils vont essayer de l'investir dans la journée. Et à la fin de la journée, ils vont avoir tout vendu. Donc, leur stratégie, c'est vraiment d'être devant l'écran puis d'aller percevoir les petits soubresauts dans une entreprise. Et là, ils se foutent un peu, puis le terme n'est pas négatif, mais ils ne s'occupent pas à savoir le marché va où. Ils peuvent un petit peu le regarder, mais ils vont vraiment se prendre, sélectionner quelques actions puis les regarder de très près, faire un zoom puis dire « Oh, là, il semble y avoir une petite tendance qui commence, j'embarque dedans ».
OK, mais ça, il faut être connaisseur un peu, là, rendu là.
C'est
là. Faire du day trading.
Et j'avoue, j'ai déjà été dans une salle où est-ce qu'il y avait une quinzaine de personnes qui jouaient que ça. Et c'est, je vais dire, c'est un petit peu négatif ce que je vais dire, mais c'était ma perception à ce moment-là que une fois qu'ils ont fini leur journée, ils ont fait quoi à la société? Est-ce que on va prendre un travailleur, que ce soit un balayeur de rue ou quelqu'un qui travaille à l'épicerie ou dans un bureau de direction, il rend du service à une clientèle, donc il a donné quelque chose. Puis là, j'étais là, eux, ils sont devant de l'écran, ils jouent avec de l'argent, puis ils ressortent, ils se prennent, s'ils sont performants, ils font un peu d'argent, mais qu'ont-ils apporté à la société? C'est ce petit côté-là, moi, qui me chatouillait un peu, là.
OK. Fait que ça pouvait ressembler au loup de Wall Street, si je comprends bien.
Oui. Effectivement.
Je ne sais pas si les gens connaissent le film, mais vous ferez comme moi. Ça, il dure longtemps, par exemple. C'est un film qui dure plus de 2 heures.
Je veux terminer. Je vois le temps avancer. Chose importante, puis je vais plus décortiquer la formation que je donnerai le 14 octobre. À la base, comme je disais, ça prend un peu de connaissance et il est important d'avoir une certaine structure. C'est facile de dire à quelqu'un, « Hey, on va reprendre le titre de Nortel, c'est le temps d'acheter. » Parfait. Je prends cette information-là, ce tuyau-là, puis j'achète. Ben, après, j'ai acheté, je fais quoi? Donc, il y a comme une structure là, en 5 étapes que moi j'ai, que je suis, c'est de dire, ben, dans quel marché je vais investir?
Ouais.
Je veux-tu aller que dans les cryptos? Je veux-tu aller à la bourse normale? Est-ce que je prends juste la bourse canadienne? Est-ce que je vais sur le marché américain? Est-ce que je prends le CAC là, en Europe, en France? C'est un choix de marché que je vais prendre.
Okay. Puis là, est-ce que c'est à ce moment-là, Frédéric, qu'on se questionne aussi sur à quel niveau de risque je suis prêt à prendre? Moi, est-ce que
c'est le deuxième point.
Ah, c'est exactement. Le deuxième point, OK.
Le deuxième pas point, finalement? C'est combien je vais acheter? Tu me devances, Manon.
Bien involontaire de ma part.
Donc, la deuxième étape, c'est combien je vais acheter. Parce que, admettons que je prends 10 000, je le mets dans un compte de bourse. Et est-ce que je vais mettre tout en même temps dans une seule action que je détermine qu'elle peut être intéressante dans le marché que j'ai choisi ou je le mets dans 10 actions? Là, on vient expliquer dans cette fameuse théorie-là la diversification de nos actifs. Donc, si je mets 10 000 dans une seule action puis que l'action perd 10 %, ben je perds 1 000 $. Si j'ai mis 1 000 $, je vais perdre 100 $ sur mon 10 000. C'est un peu... Mais si on gagne dans le sens inverse, ben si j'ai juste mis 1 000, je gagne 100 $. Si j'ai mis mon 10 000, je gagne 1 000 $. Donc là, on joue. Il y a deux théories. Je reviens avec mon bon ami Warren Buffett, que je connais pas du tout en personne. Je sais pas pourquoi j'ai dit bon ami. Parce que d'un bord, il y a la diversification qu'on dit qu'il faudrait avoir minimalement 8 actions différentes et ça va même jusqu'à entre 16 et 20. Là, ça, je ramène dans ma théorie d'il y a peut-être 30 ans quand j'ai étudié tout ce domaine-là. Et Warren Buffett, lui, sa théorie, son principe, c'est de dire « J'aime mieux avoir moins d'actions et de les surveiller plus. »
La qualité plutôt que la quantité. J'adore.
Donc, il y a comme la grande théorie, la majorité des gens, et on s'entend qu'il y en a beaucoup qui perdent. C'est à peu près, il y a 9 personnes sur 10 qui perdent à la bourse parce qu'ils n'ont pas les connaissances de base. Donc, eux, ils partent avec cette théorie-là, je m'éparpille, mais il faut avoir... Si on s'éparpille, ça prend du temps aussi pour les surveiller les titres.
Oui, mais en même temps, je dirais que ça nous prend une diversification, mais une diversification intelligente.
Oui, c'est un bon terme.
OK. Je prends des notes, moi, là. Hein, vous ne me voyez pas, gang, mais j'ai vraiment papier-crayon, puis je prends des notes. Le troisième, c'est quoi, Frédéric?
Le troisième, c'est quand j'achète. Maintenant, j'ai choisi un marché.
Ouais.
Je dis que je vais prendre 10 % de mon argent à chaque transaction ou 5 % ou on détermine qu'est-ce que je suis prêt à mettre à risquer de mon capital.
OK.
Parce que l'idée, c'est de ne pas trop le perdre. Donc, on joue le risque-rendement. Et là, c'est quand j'agite. Donc, là, ma stratégie. Là, il y en a une panoplie de stratégies. Le 14, je vais en parler de minimum 2, puis peut-être une troisième. On verra le temps qui m'est alloué si j'ai le temps d'en parler d'une troisième. Donc, il y a la stratégie. Quand est-ce que quand j'agite?
Okay.
Est-ce qu'il faut qu'il fasse telle configuration? Est-ce qu'il faut qu'on joue avec des moyennes mobiles? Est-ce qu'on joue avec des résistances, des supports? Le sous des termes très techniques, je m'excuse, c'est du jargon. Là, si vous connaissez pas beaucoup ça, c'est du jargon. Mais ceux qui ont déjà commencé à étudier un petit peu ça, c'est vraiment la base, là, faire des lignes de tendance, des moyennes mobiles et tout ça. Donc, là, on détermine notre
propre... J'espère que vous aimez les mathématiques, gang!
Donc là, selon notre stratégie, quand on agite, il y a un signal qui doit se faire et il faut le prendre quand le signal se fait.
Fait que ça veut dire, Frédéric, que c'est pas la journée qu'on décide d'investir en bourse qu'on doit commencer à surveiller ça.
Non. C'est bon. Un bon exercice, c'est de faire un portefeuille fictif. Donc, de dire, je me mets 10 000, puis mettons que là, je choisirais celle-là. On peut l'écrire sur un papier, j'achète à tel prix. Essayez de mettre la raison pourquoi je l'achète. Qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de l'acheter? Parce que mon voisin me dit que c'est à 125 et c'est rendu à 65? Ou parce que moi, j'ai fait ma propre analyse ou j'ai regardé le graphique et j'ai dit, oups, ça donne l'impression que ça va repartir.
Explication très claire.
Oui.
Quatrième point?
Quatrième point, c'est si je suis un tuyau, par exemple, on me dit d'acheter du Nortel à 85 quand ça vaut... Le futur nous indique que ça l'a planté. Quand est-ce que je vends à perte? Elle est très importante, celle-là. Il y a beaucoup de gens qui ne vendent pas. Même au contraire, ils vont racheter. En descendant, ils vont racheter. Ils vont dire, je vais en acheter plus. Quand ça va remonter, je vais faire plus d'argent. Mais ceux qui l'ont acheté à 120, quand il était à 125, ils l'ont racheté à 80, 60, 20. Et
finalement, ça a fini qu'ils n'avaient plus.
Et ça a coûté cher. Là. Fait que là, tout leur capital, le point 2 qu'on disait, je mets 10 %, s'ils font ce genre d'achat-là à la baisse, tout le capital est rendu dans une seule action, puis il y en a qui ne remontent jamais.
Mais en même temps, on apprend de nos erreurs. Donc, ça pourrait très bien arriver que ça soit une erreur de débutant, ça. Hein?
Oui. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans cette section-là, c'est qu'une grosse perte commence par une petite perte.
Une grosse perte commence par une petite perte. Ouais.
Elle est simple comme phrase.
C'était vraiment, mais c'est songé mais en même
profonde.
Temps. C'est puissant, là. Oui.
Parce que là, à ce point-là, quand je vais vendre à perte, ben le risque rendement, quand j'achète, moi, quand j'agisse, ben, je vais vendre là, donc je suis prêt à perdre 2 %, 1, 2, 3 %, mais c'est quoi mon potentiel en haut? Et là, le 14, je vais donner une feuille de calcul que je me suis fait. Tu me connais un petit peu maintenant, j'aime beaucoup les chiffres. Je vais parler de l'espérance mathématique de rendement, où est-ce que même si je perds plus en argent quand je perds que je gagne, je suis gagnant. Ça, c'est, je garde la surprise pour le 14. Et la dernière étape, c'est j'ai acheté, j'ai pas vendu à perte parce qu'elle est partie dans le sens que je voulais.
Ouais.
Je vends quand? Pour prendre mes profits. Parce qu'elle peut monter puis redescendre au même prix que j'ai acheté puis descendre plus bas après. Mais il faut que je détermine où je vends. C'est quoi ma stratégie de vente en haut? Donc, une fois qu'on a ces cinq étapes-là minimalement, on a un précis de beau système de transactions, comme je disais tantôt, avec un peu de connaissances de base, s'inscrire soit par les banques ou par des compagnies à des escompteurs, à des courtiers escompteurs. Donc, c'est nous. Et ça aussi, c'est un autre phénomène qui est intéressant. Il y a plusieurs années, les transactions coûtaient très cher et les gens qui voulaient investir devaient appeler un courtier. Et le courtier faisait la transaction, pouvait conseiller, donc ça coûtait plus cher d'avoir un courtier qui nous conseille. Maintenant, avec l'avenue de l'informatique qui est tellement de plus en plus puissante...
On n'a plus besoin de courtier pour faire nos transactions,
non,
on peut tout faire nous-mêmes.
Moi, j'achète par l'ordinateur chez moi, j'appelle pas un courtier.
Puis là, j'ai-tu besoin d'être dans l'AMF puis toutes ces patentes-là pour pouvoir transiger ça moi-même?
Ben c'est... L'institution financière qui accepte de t'ouvrir un compte fait ses propres vérifications et ont leurs propres règles. Et là, je pense
qu'on ne peut pas embarquer là-dedans, là, mais c'est une chose qu'il faut quand même valider.
Si c'est toi qui le fais, ben, entre guillemets, c'est à tes risques et périls. C'est ton argent que tu mets. Et une chose qu'on n'a pas parlé, oui, je pense qu'on pourrait terminer avec ça, c'est que l'argent qu'on met là, il faut se dire que si on perd tout, ça m'empêche pas de mettre du pain et du beurre sur ma table pour moi, ma famille.
Oh, que ça, j'aime ça. Ça fait partie de notre stratégie intelligente, je trouve.
Exact.
Ouais. Tu sais, c'est... Arrangez-vous pas pour tout perdre, gang, finalement, là.
Exact. Et en terminant, je vais leur passer, j'aime bien penser à la bourse. Souvent, je parle de haut et de bas. Puis je pense que dans la, quand j'ai partagé ce que Manon a préparé, j'avais écrit là, des choses comme ça, voir les hauts et les bas de la bourse.
Oui.
J'aime bien comparer ça avec la marée.
Mais ça, ça peut faire des vagues, hein, s'il vous plaît.
Donc, à la bourse, ça monte, c'est des cycles. Ça monte, ça descend. Il y a quatre cycles à la base. J'en parlerai le 14 aussi.
Okay.
Comment les déterminer sur un graphique? Un enfant de 7 ans. Mon garçon est 17, bientôt 18. Depuis qu'il y a 7 ans, qu'il me regarde voir des graphiques, puis j'y pose la question. On rentre-tu là-dedans ou pas? Puis, oui, parce que, non, parce que. Un enfant peut déterminer la tendance.
J'aime ça d'initier les enfants de cette façon-là. Frédéric, un bon tuyau que tu donnes à nos auditeurs.
Et donc, il y a des marchés très lourds, des tendances très lourdes. Donc, la marée, ça peut être un tsunami. Et là, on a le choix. Est-ce qu'on est dans la vague du tsunami ou on essaie d'aller dans des actions contre? Donc, si le marché global est montant, est-ce que je vais essayer de... ou l'inverse, on irait, le marché est descendant, est-ce que je vais essayer de trouver une action dans tout ce marché-là qui va vers en haut pour gagner?
Mmh.
Donc, je joue à contresens. Est-ce que dans un secteur qui est en train de descendre, tantôt je parlais de la bulle spéculative, de la technologie, donc ça montait, mais si elle descendait, est-ce que je vais essayer de trouver un titre au hasard qui va remonter à travers cette tendance de secteur-là et le titre lui-même, si je vois qu'il y a une tendance vers en bas à l'œil, est-ce que je vais vouloir tenter le coup de dire « Ah, d'après moi, c'est le plus bas qu'elle est aujourd'hui. » Ou j'attends d'avoir vraiment des signaux qu'elle repart vers le haut. Donc, c'est l'idéal à la bourse, comme la marée, c'est d'être dans la tendance.
Frédéric, ça n'a pas changé. Tu es un passionné des chiffres. Tu nous en as... En tout cas... Tu m'en as appris, tu en as appris à nos auditeurs, j'en suis convaincue. C'est pas évident de traiter de ces sujets-là à la radio, parce que c'est quand même très technique. Hein?
C'est technique.
Tu nous ramènes dans notre tête, en tout cas moi, ça me ramène dans ma tête. Et quand tu fais une chronique, c'était comme ça les autres fois quand tu faisais une chronique, ça me prenait papier et crayon vraiment en main, prendre des notes parce que tu nous donnes une panoplie d'informations hyper riches, hyper pertinentes. Maintenant, mais là, en plus, aujourd'hui, tu nous ouvres la porte tout de suite à la première chronique que tu fais cette saison, à ce qu'on aille te voir le 14 octobre au Doolies de Donnacona.
Exact.
De 11h à 14h et que tu nous dis, hey gang, venez me rencontrer là, je vais encore vous donner du contenu et c'est gratuit, encore une fois. Donc, tu vois, pousser ce que tu nous as dit là aujourd'hui. Tu as juste mis la table aujourd'hui.
Oui.
Et quand on va être au Doolies le 14 octobre, ben, tu vas nous emmener encore plus loin. Tu vas nous montrer un portefeuille fictif, je pense que tu as appelé ça.
Ben, je vais avoir un tableau avec des feutres. Ça, c'est une chose. Et il y a un écran géant. Donc, je vais pouvoir montrer vraiment des graphiques réels. Et là, je vais montrer deux ou trois exemples de mes dernières transactions. Savoir pourquoi j'ai pris la décision d'acheter. Et quand j'ai vendu, est-ce que j'étais à gain ou à perte?
Okay. Les gens qui veulent s'inscrire à cette activité-là de Frédéric, l'idéal, si vous êtes dans la région de Québec-Lévis, c'est d'aller sur le groupe Facebook « Ça se passe au Québec ou à Québec? »
À Québec, je pense, oui.
« Ça se passe, attends un petit peu, ça se passe, c'est écrit où? » Je ne sais pas, je suis sur la page de vente très chère. Moi, j'ai partagé... OK, bien, la publication que j'ai partagée tout à l'heure, c'est « Ça se passe à la Guadeloupe ». Je pensais que j'étais dans « Ça se passe à Québec », mais probablement, c'est qu'il y a d'autres activités de ce genre-là dans d'autres domaines. Et la prochaine se passe, justement, je pense, à la Guadeloupe. Ça se peut-tu, hein, le 30 septembre? Non, c'est à Lambton. À Lambton, le 30 septembre. Et l'histoire des génératrices... tout cas, on n'est pas là pour parler de ça, mais je pense que ça aussi, ça va être hyper intéressant. Et vous voyez, dans cette publication-là, vous voyez le ça se passe à Québec de Frédéric Huon le 14 octobre. Et vous avez toutes les coordonnées de M. Stéphane Boutin, qui est l'instigateur de tout ça. J'ai eu un talk avec lui dernièrement. Et je l'ai invité à venir nous voir à Vente fraîcheur. Il va être là probablement au mois d'octobre si les agendas concordent. Là, c'est à confirmer. Je vais vous le ramener en onde. Je trouvais ça hyper intéressant. Tout ce qu'il avait comme bagage, j'allais dire ce bonhomme-là, mais avec tout plein d'amour. Ce n'est pas péjoratif si je dis bonhomme. Alors, allez voir ça. C'est M. Stéphane Boutin. C'est auprès de lui que vous devez réserver vos places et c'est gratuit. Donc, si vous avez un intérêt pour la bourse, allez.
Puis l'important, à l'activité là, de Frédéric. J'ai resté simple aujourd'hui. Oui. Le 14, je repars avec ces mêmes bases-là. On va un peu plus loin, ça va être plus visuel. Mais l'idée, c'est que les monsieur, madame qui connaît même pas ça, puis qui veut juste apprendre un peu, va en ressortir avec des bons outils en main pour dire « oui, je veux tenter l'expérience ».
Oui, et comme tu as dit tout à l'heure, ben gang, si vous avez de la misère à mettre du pain, du beurre, de la nourriture pour vous puis votre famille sur la table, ben je suis désolée, en ce moment, c'est peut-être pas votre place encore. Fait que, commencez par les bases. On parlait d'une fois de la pyramide de Maslow à l'émission. Bien, ça commence par là aussi. Ma belle gang, merci d'avoir été là pour cette chronique-là avec Frédéric. Merci à toi, Frédéric. Le mois prochain, je ne me souviens plus, j'ai plus mon fichier.
Je parle de mon troisième livre.
Oui, ça aussi, ça va être intéressant. Je ne sais pas si vous avez lu les deux premiers, gang, mais c'est le temps de faire... si vous voulez vous procurer ça, là, un petit coucou à moi ou à Frédéric Huon sur la page Le Financier. Vous likez tout ça, ça va lui faire plaisir également que vous communiquiez avec lui. Encore merci, Frédéric.
Ça me fait
On se revoit
plaisir.
Le mois prochain pour un autre vent de fraîcheur financier. Après la pause, ma belle gang, je vous présente un organisme tout à fait phénoménal qui œuvre à l'épanouissement de notre jeunesse à nous autres. Vous restez avec nous autres, hein? Promis? Restez là. À tout de suite.
Rendez-vous sur le sacrose.ca.
CJMD 96.9.
Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur, 12h12. J'aime ça, moi, des heures miroirs. Pascal Manon nous en parle des fois quand elle vient faire des chroniques numérologiques. Mais là, ma belle gang, vraiment, je suis contente d'avoir découvert cet organisme-là, mais sous un autre angle, parce que j'ai 4 enfants qui ont joué au soccer à un moment donné. On ne faisait pas partie de l'IVS. Mais aujourd'hui, puis je suis contente parce que tout ça, c'est grâce à Québec 2-1-1. Vous n'avez pas idée à quel point ils sont puissants, eux autres, dans la vie. Ils m'ont aidé cette année à communiquer plus facilement avec les OSBL de Chaudière-Appalaches. Et François a communiqué avec moi pour me dire, hey, moi, je suis vraiment intéressée à venir te parler à l'émission. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le directeur général du club de soccer de Lévis-Est, M. François Ouellet. Bienvenue à Vente fraîcheur.
Bonjour.
Comment ça va?
Super bien. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Première expérience radiophonique ou pas?
Oui, c'est la première.
Ah ben moi, j'aime tout le temps ça que ça se passe dans mon émission. Je suis vraiment contente. On va mettre la table là-dessus. Et oui, j'ai parcouru votre site Internet. Oui, je t'ai parlé brièvement, François. Sérieusement, le soccer, là, on est rendu ailleurs, hein?
Tellement, là, c'est tellement pas comme dans les années 90 quand ça a commencé.
Vraiment, mais je veux que tu me parles de la mission du club de soccer de Lévis-Est.
Voilà, je vais résumer ça comme ça. Notre objectif, c'est de faire bouger les jeunes. On veut que les jeunes bougent. Bon, bien sûr, nous, c'est le soccer. Mais on s'entend qu'on... On croit en aux multidisciplines. Donc,
ouais.
Je vais vous parler de soccer aujourd'hui, mais l'objectif, c'est de faire bouger les jeunes à Lévis. Et on s'appelle Lévis-Est.
Oui.
Parce que nous, on est de Charny jusqu'à Montmagny. Voilà.
C'est quand même une grande couverture. Là.
Le territoire est ultra vaste.
Et là, vous autres, vous rentrez en compétition, dis-je bien, avec Lévis-Ouest. Qui
exactement,
est l'autre
côté de la rivière.
L'autre bord de la rivière, là.
Oui.
Fait que vous vous affrontez, là.
Oui, on s'affronte. On affronte aussi la Rive-Nord, qui est divisée en différents clubs.
OK. Mais là, combien de jeunes que vous aidez comme ça annuellement?
Je vous dirais que sur notre offre de service, parce que maintenant, le soccer, c'est à l'année, on parle de 2000 jeunes.
2000 jeunes?
Oui.
Wow! Et là, l'offre de service... Oui, on veut en parler de l'offre de service parce que moi, j'ai découvert des affaires en parcourant votre site, là.
On en a beaucoup.
Vraiment, l'offre de service va au-delà du jeune... Mon Dieu, je ne sais même pas comment le qualifier.
Qui veut simplement jouer une fois par semaine l'été.
Oui!
Puis qu'après ça, il recommence l'école puis il va vers d'autres sports. On offre plus que ça.
Oui, il y a une certaine continuité et il y a une certaine diversité de jeunes également. Je vais m'exprimer comme ça.
Exactement.
De quoi tu veux, par quoi tu veux commencer?
Voilà, ben, j'irai comme ça, là. On va parler de la diversité de l'offre de services.
Oui.
OK? Donc, je veux situer les gens, là. J'ai 40 ans. Quand j'étais jeune, je jouais au soccer. Jouais l'été seulement. Maintenant, il y a des stades intérieurs. Donc,
le soccer. Bons en plus.
Oui, vraiment. Et le soccer, c'est donc 12 mois par année. Donc, dans 12 mois, on peut jouer au soccer pour le plaisir, volet plus récréatif, on peut jouer volet initiation à la compétition, on peut jouer plus compétitif, mais au-delà de ça, à Lévis Est, ce qu'on a décidé de faire, c'est de diversifier notre offre. Je commence comme ça, OK? On a le soccer tel que vous le connaissez, à l'année. On a également un camp de jour. Et dans notre camp de jour, il y a deux volets. Donc, on a un camp de jour, comme la ville a un camp de jour, où on fait du soccer le matin. L'après-midi, on a des activités dans le parc, on va au jeu d'eau. Mais notre distinction, c'est qu'une fois par semaine, on fait une sortie autre. Exemple, Valcartier. Exemple, laser tag. Donc, ça permet, et là, laissez-moi m'exprimer comme ça, je veux dire, ça permet à la famille moyenne, ce n'est pas péjoratif, hein,
c'est là, juste pour quand expliquer. Tu parles de famille moyenne, est-ce que tu parles du moyen financier?
Non.
Non?
Je parle du membre moyen. Donc, quelqu'un qui veut inscrire son jeune dans le sport, nos sorties permettent, la fin de semaine, d'avoir une vraie vie de famille. Ce que je veux dire par là, c'est que le jeune qui a vécu le laser tag pendant l'été, qui a vécu le récréophone, qui a vécu le carry factory, n'a pas besoin de retourner avec ses parents. Et nous, au volume, ça coûte beaucoup moins cher qu'une sortie familiale.
Ah, oh, c'est donc bien génial, j'avais pas pensé à ça.
Donc, c'est comme ça qu'on diversifie notre offre de service.
Vraiment.
Toujours
très,
en lien
très,
avec
très,
le camp
très
de jour.
Hot. Ouais. Les parents doivent être reconnaissants pour ça mille fois.
Oui, puis là, je compte une brève anecdote, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs parents qui nous reviennent en disant si moi, je vais une journée à Valcartier avec mon enfant.
Hey, ça dit coûte une beurrée, là.
Voilà, c'est 200 $ pour une famille de quatre. Alors que moi, 200 $ c'est la semaine. Et bien sûr, dans cette semaine-là, le jeune a pu aller à Valcartier.
Ouais.
Vous voyez un petit peu, fait que ça rend service.
Oui, oui. Puis encore plus dans le contexte actuel où certains ont peut-être de la difficulté à emmener du pain du beurre sur la table.
Exactement.
Ah, que j'aime ça. On s'inscrit quand pour ça, le camp de jour?
OK, donc le camp de jour, les inscriptions commencent toujours à la fin du mois de janvier. Parce qu'on prévoit les vacances. Hein, les familles prévoient les vacances dans ces moments-là. Okay. On peut s'inscrire à la fin janvier à chaque année au camp de jour de Lévis-Est.
Et ça s'adresse à la clientèle qui a quel âge?
6 ans. Jusqu'à 12 ans.
6 à 12 ans. Donc, fin janvier.
Fin janvier.
Surveillez ça sur le site. De
sur le site, sur nos réseaux sociaux. Là, vous allez voir, après ça, c'est Instagram et tout, mais on essaie d'être branchés.
En plus, tabarouette, j'ai pas poussé ça jusque-là. Quoi d'autre?
On a un programme de soccer adapté qui s'appelle Les Uniques.
Oui!
Voilà, Les Uniques qui fonctionnent depuis plusieurs années au club de soccer Lévis-Est. On a eu la demande à la fin de cet été d'avoir ce programme-là annuellement. Et en ce moment, on y travaille. Donc, le soccer adapté, c'est pour des jeunes ayant soit des déficiences, intellectuelles ou physiques.
OK.
Et c'est bien sûr encadré par les Olympiques spéciaux, donc Lévis-Beauce, et c'est vraiment des beaux organismes. Et après ça, on est soutenu aussi par des commanditaires. Je vous ferai pas de cachette. Mais reste que ça permet une autre dimension à notre sport qui est le soccer pour nous, là, qu'on adore, et ça permet à une plus grande clientèle de pouvoir pratiquer ce sport-là.
Là, François, t'es-tu en train de nous dire que quelqu'un qui a un enfant en chaise roulante peut maintenant aller jouer au soccer?
Oui.
Wow!
En marchette, peu importe. On en voit de toutes les sortes, mais vous n'avez pas idée comment que, pour notre mission, ça nous fait sourire.
Et combien de jeunes vous pouvez accueillir dans cette catégorie-là? De quel âge à quel âge également?
On n'a jamais fait trois groupes, mais c'est notre objectif. Deux groupes, c'est souvent là, ça, entre 10 et 20 par groupe.
OK.
Ouais. Et ça dure 8 semaines l'été. Comme je vous dis, on veut devenir annuel. On aimerait ça avoir 3 sessions de 8 semaines.
Qu'est-ce que ça prend pour que ça arrive?
des bénévoles, des plages horaires. Donc, hein, faut libérer quelques places dans les stades et ou dans des gymnases d'école secondaire. Mais on y travaille en ce moment, puis voilà, j'ai confiance en mon équipe.
Donc là, il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont envie de s'impliquer, là. Ils font quoi?
Ils envoient un courriel tout simplement à Club de soccer Lévis-Est.
Yes.
Oui.
Allez, Unique, j'aime ça. J'ai vu une autre affaire qui s'appelait quelque chose comme les futsals.
Oui, exactement, le futsal.
Futsal,
voilà.
OK. Ouais.
Donc, le futsal, là,
bon,
c'est...
Bon, ça, est-ce que ça vient de ta communauté? Il me semble que c'est prononcé un peu à la... à l'africaine.
Oui, non, voilà. Le futsal est né en Amérique du Sud.
OK.
Ça fait quelques années. Puis, est ultra pratiqué dans le monde partout. Donc, c'est dans un gymnase.
Okay.
À 5 contre 5. Ça s'apparente au soccer, mais le ballon rebondit à peu près pas. Donc, c'est très technique. Tu développes beaucoup l'agilité des pieds.
OK. Et ça prend quoi pour pouvoir être là?
Tout simplement de communiquer avec le club dans sa région. Là. Nous, c'est bien sûr
les
élites.
OK, c'est pas nécessairement pour les élites du soccer.
Non. OK. Non. Et c'est pour ça que je m'en viens avec l'offre de service. Allez voir le parallèle directement.
Ouais.
Comme notre mission, c'est de faire bouger les jeunes, en ce moment, et depuis déjà un an et demi, on est dans les écoles primaires de notre secteur. Pas toutes les écoles, mais les écoles qui veulent de nous, sur l'heure du dîner, en parascolaire, on fait pratiquer les enfants au futsal.
Ben voyons donc.
Et là, on compte deux besoins. Puis c'est pour ça que ça touche un peu des cordes sensibles. Il y a un manque de personnel dans les écoles.
Vraiment?
Tout le monde le sait. Donc dans les services de garde, des fois c'est difficile. On a même des histoires de certains parents qui n'ont plus de place en service de garde, donc sur le midi, ils doivent venir chercher leurs enfants. Bref,
oui.
Nous, ce qu'on fait, avec du staff qu'on a, on envoie dans les écoles qui veulent bien sûr, un éducateur le midi qui fait dîner les jeunes, et après ça, ils font du soccer, mais ils foutent sale, parce que c'est avec le ballon qui ne rebondit pas.
Mais c'est donc bien génial. J'ai l'impression que vous allez avoir de la demande, François. Là. Êtes-vous prêt à faire face à cette demande-là, croissante? Ben,
en ce moment, c'est
drôle à dire. Il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre chez vous?
Il y a une pénurie, je vais dire ça, d'éducateurs, qu'on peut appeler aussi coach en anglais,
ouais.
Là, mais d'éducateurs formés pour un certain niveau.
Okay.
Mais au club, on a beaucoup, beaucoup de jeunes, je veux dire, jeunes étudiants qui veulent s'impliquer dans le soccer, qui sont rémunérés pour. Donc, comme ils veulent s'impliquer, c'est eux qu'on envoie. Parce qu'avec les horaires de cégep ou d'université, il y a toujours des midis et des plages horaires de libre à gauche, à droite.
Oh, que j'aime ça, ce volet intergénérationnel-là.
Intergénérationnel.
Oui, j'aime ça au bout. Et là, c'est les écoles qui doivent faire la démarche, si j'ai bien compris. Là.
Bien, c'est idéalement, nous, ce qu'on a fait de notre côté, on a envoyé un courriel à toutes les écoles primaires sur notre territoire. Après, on sait qu'ils sont débordés de courriels. On sait qu'ils reçoivent... Fait que, assurément, il y a des courriels qui ont passé entre deux chaises. C'est pas grave. On relance. Mais en ce moment, les écoles qui nous ont recontactés, dites-vous que en date du 22 septembre, ça commence. Donc, c'est là, ça, c'est pour la session d'automne. Il y a des écoles que c'est automne, hiver, printemps déjà. Là. Ils ont déjà cédulé tout ça.
C'est vraiment hot. Puis à la limite, les parents, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parlez-en à votre école. Les conseils d'établissement, ça existe encore. Parlez-en à vos services de garde, parce que c'est le volet service de garde qui s'occupe d'animer l'heure du dîner également. Là.
Exactement.
Et effectivement, il y a une pénurie de main-d'œuvre, même dans les surveillants le midi. Là.
Exactement. Puis j'adore. C'est sûr que. Exactement comme tu as dit, Manon, j'encourage le parent à en parler parce que moi, je ne peux pas faire de la publicité et solliciter des mineurs. Donc, même si j'ai un dépliant, je ne pourrais pas aller à l'école le porter. Il faut que ça vienne du côté des parents.
Oui. Bien, le message est lancé. Là. Je pense qu'il y a un paquet de parents qui nous entendent en ce moment. Puis, d'après moi, ils sont en train de dire « Ah, voilà la solution que je cherchais. »
Ouais.
Vraiment.
Un peu de sport.
Oui. Quoi d'autre dans votre offre de service? J'en veux plus.
OK, bien... C'est sûr qu'on a d'autres choses. En gros, ce qu'on souhaite à Lévis-Est, dans notre offre de service, c'est des nouvelles idées. On s'est dit comment qu'on peut penser en dehors de la boîte. Donc, pour compléter avec les écoles primaires, on lance en janvier 2024 une plateforme informatique qui s'apparente à un cahier à rabais virtuel.
Oui.
Et là, vous allez voir, là, ça prend tout son sens. Quand j'étais jeune, moi, je vous dirais, en 99, au cégep, j'avais un antidote. Tu sais, le petit livret sur lequel on découpait des... Voilà. Notre objectif au club, pour faire rentrer des sous, pour pouvoir donner plus de matériel aux jeunes, matériel dans les écoles, renflouer l'ensemble de notre équipement, on s'est dit, pourquoi la communauté pourrait pas nous aider à aider les jeunes dans le but de bouger puis faire du sport? Donc, cette plateforme-là s'appelle La Touche. Petit parallèle avec le soccer. Nous cherchons des commerçants qui veulent être affichés et offrir des rabais à la population. Je vais vous donner un exemple concret, là. Moi, une fois par année, j'achète des fleurs, soit à ma mère, soit à ma copine. Ben, si un fleuriste est intéressé à encourager les jeunes, il y a un coût annuel pour être affiché, un rabais que vous donnez, et moi, je demande à mes membres d'encourager ce commerçant-là plutôt qu'aller dans un autre fleuriste.
Tout le monde est gagnant.
Tout le monde est gagnant. Et ça fait en sorte que ces sous-là vont directement pour notre matériel dans les écoles.
Et là, on n'a plus de papier à traîner, si je comprends bien.
Plus
là,
papier ça à traîner, va être une
application sur notre cellulaire.
Application sur le cellulaire directement.
Wow.
Donc, les coupons rabais sont directement intégrés au cellulaire.
On n'a plus de raison.
Et on souhaite que ça pogne.
Ben, je ne verrais pas pourquoi. Ça pourrait même être le garagiste qui offre un rabais sur un changement d'huile.
Garagiste, boucherie, tout ce qu'on utilise à chaque semaine, quoi.
Ben, tout à fait. Excellente idée, j'adore ça. Ça va être en vigueur en janvier?
Exactement.
2024.
Oui, janvier 2024.
Moi, je pense qu'on va tous s'abonner à vos réseaux sociaux. Là. De même, là.
C'est sûr qu'on va faire un lancement là, en bonne et due forme.
Fait que là, ça veut-tu dire que des ventes de chocolat, ça, c'est terminé? Ça n'existe plus?
Non, ça existe aussi. Nous, ce qui arrive, c'est qu'on a un partenaire qui nous fournit en chocolat pour les gens qui veulent financer leur saison. Donc, je donne un exemple. Okay? Une saison de soccer, là, je vais dire moyenne, pour un jeune en bas âge, en bas de 9 ans, coûte environ, je dirais, 200$ là, pour une session. Bien, c'est sûr qu'en vendant du chocolat, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui payaient leur saison. Fait qu'on offre cette possibilité-là. On a beaucoup de partenaires faisant en sorte que les jeunes peuvent être aidés financièrement. Peu importe dans quelle situation financière que vous êtes, ces projets-là sont offerts à tout le monde.
OK.
Oui.
Donc, même une famille qui n'a peut-être pas les moyens en ce moment de se payer, de payer du soccer à son enfant, peut, par le biais de cette vente de chocolat-là, bénéficier de l'offre de services en soccer.
Exactement.
Bon, oui, il faut qu'il fasse des efforts, il faut qu'il y ait de la vente de chocolat. Mais c'est possible. C'est une belle école, ça aussi, la vente de chocolat. Moi, je me rappelle en avoir vendu du chocolat quand j'étais jeune pour payer des voyages ou tout ça, là.
Même chose pour moi.
Et il y a tout le temps quelqu'un qui veut nous encourager, là.
Toujours quelqu'un. Donc, tu sais, le milieu de travail, dans les écoles, mais peu importe, la vente de chocolat fonctionne.
On a-tu encore le droit de faire du porte-à-porte pour vendre du chocolat?
À ce que je sache, oui, parce qu'il y en a dans notre club qui en font, puis ça fonctionne.
Tu vas voir le voisin, la voisine en face, à côté. Si t'habites dans un bloc appartement, my God, tu vends ça comme ça, là.
Exactement.
Tout le monde veut acheter ça. Écoute, j'adore le principe de se financer comme ça pour aider les plus démunis.
Exactement. Puis ce qu'on veut, c'est toujours permettre aux jeunes de faire du sport. Donc, on a aussi d'autres programmes, grâce à Desjardins, grâce à d'autres partenaires, permettant d'aider les personnes qui sont moins en moyen de pouvoir quand même pratiquer le soccer. Donc, il y a plusieurs volets à notre offre de service qui peuvent aider les jeunes à s'inscrire.
Parce que ça prend aussi un équipement hein, pour jouer au soccer.
Oui, oui.
Il y a des fonds d'aide pour ça.
Ça. Okay. Exemple, bon départ avec Canadien Tailleur.
OK.
Oui.
C'est vraiment génial, on pourrait en parler. Est-ce que tu avais d'autres choses dans ton offre de service? Mon Dieu, on dirait que j'ai encore du temps pour toi si tu en veux plus. J'aime ça au bout.
J'ai un programme de gardien de but. Donc, on est partenaire avec une entreprise qui s'appelle VC Soccer et on offre des cours, je veux dire, privés et semi-privés de gardien de but pour les jeunes. Ça fait aussi partie de l'offre de service parce que d'emblée, le soccer, il y a plusieurs positions.
Oui?
Mais le gardien de but a tendance à être négligé. Donc, au club, depuis un an, on fait affaire avec une compagnie qui est spécialisée pour encadrer les gardiens de but. Donc, nos gardiens de but ont aussi une petite section dans les inscriptions leur permettant à l'année de pouvoir s'entraîner pour perfectionner leur technique.
Il y a aussi tout le volet de vos arbitres. C'est aussi des, c'est encore des jeunes qui font ça?
Oui, oui, oui. Puis on est beaucoup dans la formation. T'sais, là, on n'est pas rentré dans les budgets de formation, mais dites-vous que le soccer a tellement évolué que maintenant, la formation n'est pas juste encouragée, elle est même valorisée.
OK.
Donc ça aide beaucoup. L'encadrement, on parlait d'arbitre, on parle d'entraîneur aussi, mais l'encadrement au niveau du jeune est quelque chose à ne pas négliger chez le parent. Ça, c'est un autre sujet, mais on pourra en parler longtemps.
Non, mais c'est génial, ça. Comment vous faites ça?
Voilà. Pour les arbitres, nous, annuellement, on a des formations à l'interne.
Okay.
Et il y a des formations données aussi par l'association régionale.
OK.
Donc, tout dépendant du niveau et du grade de l'arbitre. Même chose pour les entraîneurs. On a des formations à l'interne et on a des formations données régionalement. On a des formations données provincialement aussi, tout dépendant du niveau.
Et quand les jeunes sont arbitres comme ça, c'est-tu du bénévolat ou c'est rémunéré?
C'est rémunéré.
C'est une Moses de belle école. Hein? Ça, là, je ne sais pas si tu vas aimer ma comparaison, à la limite, c'est aussi bon qu'aller à l'école McDonald's.
Oui, exactement. Oui, vraiment.
Même ailleurs, parce que tu n'es pas tout le temps en train de manger de la malbouffe. Je ne l'ai pas dit fort. Mais c'est vrai, quand on travaille dans un restaurant comme ça, j'imagine qu'on a tendance à se nourrir de ce qui est là, à notre portée. Là, tu fais du sport.
Oui.
Ça ne t'empêche pas d'aller manger un McDo après si tu vas aller manger un McDo. Mais en plus de ça, tu es formé.
Oui.
Tu es rémunéré.
Oui.
Puis tu redonnes aux jeunes. Moi, dans mon souvenir, là, j'ai eu mon fils qui a été arbitre à un moment donné dans sa jeune carrière. Et c'était quand même bien payé à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore comme ça, là.
Mais là, c'est sûr que je n'ai pas les montants, tout dépendant du niveau.
Non, mais oui, c'est ça. Ça varie.
Oui.
C'était pas nécessairement le salaire minimum, là.
Non, parce que, voilà, tout dépendant des âges, c'est pas toujours une heure un match. Un match peut être d'une durée d'une heure et demie, peut être d'une durée d'une heure. Alors, voilà.
Là, on a parlé beaucoup des jeunes, mais est-ce que vous offrez quelque chose aussi pour les parents de ces jeunes-là?
Pour
les adultes.
Voilà, on a du soccer pour les adultes.
Oui.
On appelle ça senior. Donc, oui. 19 ans et plus est considéré comme senior.
Mm-hmm.
On a deux équipes au club de soccer Lévis-Est, une équipe de 35 ans et une équipe de 45 ans qui se produisent sur la scène provinciale. Eux, à chaque année, s'inscrivent dans une compétition pour affronter d'autres équipes des mêmes groupes d'âge ailleurs dans la province. Notre équipe de 45 ans a gagné cet été contre Longueuil en finale.
Wow! Félicitations, gang!
Donc, ça existe du soccer pour les adultes.
Moi, dans le temps, là, il faut reculer, là, hein, mes enfants ont plus de 20 ans, et je trouvais qu'il y avait un manque à gagner, un manque, il y avait un trou de service, que je vais dire, justement, quand ils arrivent à 18 ans, 19 ans, qui veulent continuer sans aller dans la compétition, mais continuer plus récréatif, là, ces jeunes-là, qui débutent dans la vie, se retrouvent à jouer avec des mamans, avec des gens qui ont des enfants, qui sont dans une toute autre réalité, qui s'excusent de ne pas pouvoir venir jouer au match parce qu'il y a un enfant de malade ou qu'il y a... Ben, je peux pas parce que... Peu importe la raison. Et ça fait qu'il y a eu un décrochage.
Oui.
Il y a un trou de service. Y a-t-il quelque chose qui est prévu pour ces jeunes-là?
Oui, c'est pas directement au club de soccer Lévis-Est, mais je sais que sur la Rive-Sud, il y a un réseau sport adulte que ça s'appelle.
Okay.
Et ça, c'est vraiment pour... Manon, tu l'as très bien décrit, là. Les jeunes parents qui ont des familles, et ils se regroupent. Souvent, c'est du soccer, exemple, à 5 ou à 7 sur le terrain. Donc, ça demande des équipes moins volumineuses que 11 contre 11.
Puis pour nos jeunes là, qui veulent continuer, puis qu'ils sentent ils trouvent qu'ils ne fitent pas avec ce groupe de jeunes parents-là, parce qu'eux autres, dans lui, ils ne sont pas rendus là. Ils sont encore à l'âge où ils aiment ça foirer, puis
là, on
ils
en
veulent
a.
Bouger.
Là, on en a. Nous, on a du soccer 18-19 ans, des jeunes qui sont encore aux études, mais qui veulent jouer pour le plaisir l'été, et où on a aussi le volet compétitif pour la même tranche d'âge.
C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a oublié quelque chose?
Je pense pas qu'on aille oublier quelque chose. Je pense que si on a à se revoir, je pense que ce que je voudrais informer la population, c'est toujours de garder en tête qu'on fait ça pour les jeunes et qu'après ça, en tant que parent, parce que je suis maintenant parent, le niveau d'encadrement donner à mon jeune lui permet d'avancer dans la vie? Est-ce que le niveau de compétition est réellement important? Ou c'est plus le niveau d'encadrement? Si c'est des réflexions comme ça que je pense que je voudrais avoir avec la population en général par rapport au sport puis leurs enfants.
Hey, mais c'est un point hyper important, ça.
Oh oui.
François, parce que des fois, en tant que parent, on veut pousser notre enfant, mais notre enfant, c'est pas ça qu'il veut. Puis c'est pas ça qu'il a de besoin non plus.
Je suis 100% d'accord. Et j'irais même plus loin. Je pense que tous les parents sur la planète, 100% veulent le bien de leur enfant. Mais le bien pour leur enfant, est-ce que c'est, voilà, mon enfant a un certain potentiel, il doit jouer dans un bon niveau, et ou, peut-être qu'il y a 13-14 ans, je préfère avoir un éducateur qui, lui, est formé et qui est bon, qui va amener mon enfant à jouer à un bon niveau, mais peut-être lorsqu'il sera plus mature, donc 15, 16, 17 ans. Tu sais, des fois, peut-être qu'on veut un peu trop tôt.
Mm.
Et voilà, ça, c'est une réflexion peut-être à avoir.
Ben oui, puis je pense que les parents qui nous écoutent actuellement, qui sont peut-être en déplacement, qui sont peut-être assis dans leur salon, qui vont nous écouter en rediffusion grâce au podcast, ben si vous êtes dans le milieu, justement, du soccer, ou peu importe le sport, hein?
Oui,
oui c'est
sport.
Ça. De l'avoir, cette réflexion-là,
oui.
De dire, hey, c'est-tu mon rêve à moi que je veux faire vivre, que je veux vivre par le bien de mon
à
enfant?
À travers mon enfant, exactement.
Ou c'est vraiment... Mon enfant, il aime ce sport-là
oui.
Et on fait du mieux qu'on peut pour oui. l'accompagner dans ce qu'il va vivre.
Oui, et mon enfant est-il assis dans la bonne chaise dans ce niveau-là ou il va dans ce niveau-là pour l'aura puis le paraître, mais peut-être qu'il n'est pas dans la bonne chaise, donc, tranquillement pas vite, va être moins valorisé avec le temps.
Oui, puis ça peut amener toute une problématique, mais j'imagine que vous tissez un lien exceptionnel avec ces jeunes-là. Peut-être plus les entraîneurs, peut-être pas toi,
oui,
qui,
pas moi, mais
qui
les
est
entraîneurs,
au directeur,
oui.
Là, mais les entraîneurs, les coachs, ils doivent venir qu'avoir un lien très significatif avec les jeunes.
Vraiment.
Ou avec les joueurs, peu importe leur âge, leur
oui.
niveau.
Oui.
Qui fait en sorte que si ce jeune-là, il a une problématique X, Y, Z dans sa vie, il va peut-être s'ouvrir à cet adulte significatif-là, à son coach ou à un arbitre ou peu importe, qui va faire, qui va obtenir de l'aide aussi.
Manon, tu l'as très bien dit. Là, moi, ça m'exclut parce que je suis dans le bureau.
Oui.
Mais sur le terrain, j'ai des entraîneurs, des éducateurs qui ont tellement des liens forts avec les jeunes que oui, effectivement, on est à même de prévenir des problématiques. J'ai des éducateurs qui, oui, sont à temps plein dans le soccer tellement qui sont aussi en collaboration avec une école.
Mmh.
Tu sais, moi, j'ai des entraîneurs qui travaillent à temps plein chez moi, mais à cause du manque de main-d'œuvre, j'en prête aussi. Moi, en prêter 1h30 le matin dans une école qui a les mêmes valeurs que ce qu'on partage, ça me fait plaisir.
Ouais, ben, j'adore la philosophie derrière le club de soccer de Lévis. Je crois que ça l'a évolué depuis le temps.
Oui, tout et en ça. Bien. Ça évolue
oui, oui,
et en
tout,
bien.
Tout à fait en bien. Quand on évolue, pour moi, c'est toujours en bien.
Okay.
Mais effectivement, des fois, ça pourrait avoir une connotation négative. J'ai mangé ma question, ça perd l'hypopète. Oh, pour ce qui est de l'habillement, de l'équipement pour le jeune,
oui.
Est-ce qu'il y a un programme qui fait, parce qu'à chaque année, il faut le changer, hein, les enfants grandissent tellement vite. Est-ce qu'il y a un programme pour comme redonner au suivant?
Pas exactement ça.
OK.
J'irais sur Marketplace, parce que Marketplace est encore à ce niveau-là. On voit tellement passer d'articles. Si je décortique un petit peu, dites-vous que de 4 à 8 ans, c'est Tim Hortons qui a la grandeur, là, je veux dire, du pays, mais je pense qu'ils sont aussi sur nos voisins du Sud, là, à la grandeur du pays, Tim Hortons habille les jeunes, les bas et les shorts sont donnés à chaque année. Le chandail est prêté par... Et il est ramené à la fin.
Okay.
OK. Donc ça, c'est pour les jeunes de 4 à 8 ans. Il leur reste des souliers à acheter puis des protèges tibia.
OK.
9 ans et plus. Et là, c'est sûr que ça dépend des clubs.
Oui, oui,
mais
oui.
On prête toujours le chandail de match.
Okay.
La plupart des clubs prêtent le chandail de match. Je pense que certains, c'est à l'achat. Puis au volume, c'est un petit peu moins dispendieux. Mais on réussit à s'en sortir, je vais dire, relativement bien au soccer.
Tu as bien raison, le marketplace, hein? Ça ne fait pas des miracles, mais quasiment. Là.
Mais quasiment, exactement.
Des fois, c'est peut-être nous, ben, hey, ben, comme moi, par exemple, j'avais 4 enfants, fait que la short là, oui. noire, elle peut faire du gars, elle peut faire à la fille, fille d'après, oui. si elle n'est pas tout brisée. Là.
Oui.
Ou quand toi, tu as terminé, t'as ton enfant ne joue pas, tu n'as pas d'autres enfants, ben, le voisin peut-être. L'immigrant qui arrive. Hein?
Oui.
Parce que c'est un peu ça que tu représentes aussi. Hein?
Oui, exactement. Moi, je représente les deux côtés de la médaille, si je peux dire. Moi, je suis adopté.
OK.
Donc.
T'es au Québec depuis quand, François?
Dans le fond, je suis arrivé en octobre 83.
OK.
De l'Haïti directement. Mes parents qui m'ont adopté, donc mes deux parents sont blonds, je vais dire ça comme ça.
Tu leur ressembles ouais. tellement, Tom.
Ils sont venus me chercher, eux. Okay. Ils ont décidé de faire le voyage.
Okay.
Parce que dans les années 80, c'était adopter n'était pas facile. Je vais dire ça comme ça, là, ça a été quand même un peu périlleux, puis plusieurs années. Là.
C'est un processus qui est long et périlleux.
Oui,
l'adoption.
Je pense que ça a pris au moins 7 ans entre on sait qu'on veut adopter,
oui.
on a rempli les papiers, puis il me voit la face, là, c'est environ 7 ans.
Il faut être motivé oui. en saperlipopette pour faire oui, cet acte oui. de bonté-là.
Exactement.
Bravo à tes parents.
Oui.
Puis, ben, ils t'ont inculqué des belles valeurs. Je suis obligée de le dire, là, je le constate.
Un gros merci, je leur fais le message assurément.
Et honnêtement, moi, quand je t'ai parlé par téléphone, entre moi et vous autres, gang, là, je ne savais pas que c'était un black. Là.
Oui,
on va
non,
se
c'est
le
ça.
Dire. Là.
Je suis blond aux yeux bleus au téléphone. Dans ma vie, quelques anecdotes, souvent les gens ont été surpris quand ils m'ont rencontré. En disant, oh, on s'était parlé. Oui, c'était effectivement moi, mais... Après, il faut mettre un visage sur la voile.
T'as même perdu l'accent, je trouve.
Bien, je vais aller plus loin que ça. Octobre 83, j'avais 8 mois, donc je parlais pas. Fait que dites-vous que j'ai l'accent de Sainte-Foy, là.
OK, t'as pas l'accent de la Rive-Sud.
Non,
t'as
non.
T'as l'accent de Sainte-Foy.
Oh oui, j'ai été adopté par une famille de Sainte-Foy.
OK, lui, il a pas l'accent du Southside, comme non, on dit non. ici à CJMD. Mais François, c'est vraiment génial et... Je pense que le fait que ce soit une personne comme toi qui soit directeur général depuis très peu, hein, 3 ans,
trois
je pense
ans.
Que tu me disais, oui. ben, ça l'ouvre encore les portes à tout ce qui est immigration. En fin de semaine, au Quai Paquette, il y avait des belles activités qui étaient offertes oui. par le tremplin, justement, pour l'immigration. Puis, c'est pas juste une question de couleur de peau, ça, là. Là.
Exactement.
C'est oui. des belles valeurs qu'on vient intégrer. C'est... On ouvre la porte à cette diversité-là, mais à un écosystème qui se parle, qui a une interaction entre les jeunes, entre les gens. J'adore. Et j'aime beaucoup la philosophie qu'il y a derrière votre club maintenant. Je ne sais pas de quoi elle était il y a 20 ans, je ne m'en souviens pas. Puis c'est pas important à la limite, j'ai envie de dire. Il y a eu du beau boulot de fait. Puis malheureusement, il n'y a presque personne qui parle de cette référence-là en épanouissement de la jeunesse. Puis je suis bien contente qu'on l'ait fait avant de fraîcheur.
Parfait.
Merci, François.
Un gros merci à vous.
Merci. Puis s'il y a lieu, tu nous recontactes, puis on voit ce qu'on peut faire ensemble.
Parfait, merci beaucoup.
Après la pause, gang, je vous reviens rapidement pour vous parler de 2-3 petites affaires. Restez là.
Avertissement. CJMD, c'est pas pour les doux.
A dit du houblonneux.
Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la
96.9.
Rock et hip-hop.
Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro. 418-903-5969. 418-903-5969. Un seul numéro.
96.9. Pas pour les doux.
CJMD 96.9 Lévis, la seule place où on réinvente la radio.
Clés sur armoirepmm.com, l'alternative radio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.